un petit concert.
Oui, évidemment.
On va commencer. On est très heureux de vous accueillir ce soir et d'accueillir Jacques Riffet pour une deuxième conférence sur quelle responsabilité géopolitique à l'ère ou à l'époque de l'ère Obama. Donc voilà, Jacques, je te cède tout de suite la parole.
Oui. Et je parle dans quoi? Dans rien, aucun problème.
Hein. Non, je pense.
Non, on est parfaitement en intimité suffisante. On est en famille.
On est en famille. Exactement.
En famille optimiste. C'est parfait. Alors voilà, c'est un sujet évidemment himalayen. C'est un sujet himalayen parce que, oui, dis-moi un peu comment on fait évoluer.
Alors,
dis-moi comment on avance et on recule. Après ça, je ne te dérange plus.
Juste ici et là.
Ah, mais c'est facile. Et donc, si je fais ça, j'avance.
Tu avances, vas-y.
Si ça, je recule.
Attends. Voilà, tu avances.
D'accord, et ça, je recule.
Et tu recules.
C'est une simplicité en fait.
Voilà.
Alors donc, c'est une conférence himalayenne, parce que vous devinez ce qu'il peut y avoir à l'heure actuelle comme responsabilité dans le chef d'Obama, qui au fond arrive à un moment absolument déroutant, puisque c'est la crise bancaire que vous connaissez depuis à peu près un an et demi, c'est l'écroulement de toutes ces possibilités d'envergure, puisqu'évidemment la crise a foudroyé la plupart des États, à part peut-être celui de la Chine, qui s'en sort pas trop mal, et l'Europe elle-même a traversé une très mauvaise période. Un Sarkozy qu'on aime ou qu'on n'aime pas a évidemment dû vivre des heures épouvantables en essayant de sauver ce qu'il pouvait faire, Merkel aussi. Donc au fond, le monde entier est plongé dans un certain gouffre économique. Pas seulement ça, mais depuis que Obama est arrivé au pouvoir, la Chine s'éveille de plus en plus. Elle arrive maintenant à être suffisamment émergente pour être de plus en plus inquiétante. Je reviens précisément de Chine, où j'ai visité deux universités chinoises. C'est absolument ahurissant. Ahurissant parce qu'avec un taux de croissance de 11% et une recherche de créer des élites, les universités chinoises sont mieux équipées que les universités américaines. C'est bourré d'Américains qui arrivent de Berkeley ou de Harvard pour des études en Chine, en anglais bien sûr. Parce que là, ils ont toutes les disponibilités, entre autres, en matière scientifique. Il y a par exemple les cyclotrons que l'on souhaite, en matière de biologie, il y a tout ce que l'on peut souhaiter et qu'on ne trouve même plus, disons, dans les universités belges à l'heure actuelle. N'est-ce pas, nous avons la dèche la plus totale, là, un manque de moyens épouvantable, en France aussi, et là-bas en Chine, ça explose. J'avais vu Shanghai, moi, il y a à peu près 15 ans. C'était une campagne en fast Bund avec des vaches. Et en 16 années, c'est devenu New York. J'ai vu la montée à Pékin, c'est tout aussi extraordinaire. Avant, il y a une quinzaine d'années, 20 ans, c'était les vélos. Maintenant, il n'y a plus que des voitures. Et c'est en train de monter à une puissance folle. Et donc, au fond, on peut dire qu'il y a un basculement. On le voit d'ailleurs très très bien, M. Barroso a critiqué Obama parce qu'il ne s'intéressait plus à l'Europe. C'est normal. On peut comprendre quand on regarde le monde, on s'intéresse plus à l'Asie. L'Inde est en pleine montée tout aussi extraordinaire avec Bangalore Valley qui vaut bien Silicon Valley, des élites tout aussi extraordinaires et performantes que celles des Chinois. Et il est évident que l'Europe, elle, est dans la mouise. Dans la mouise avec une mécanique européenne qui ne fonctionne plus. Qui ne fonctionne plus parce qu'on a abandonné évidemment tout esprit fédéraliste. Et entre autres, le chancelier Kohl qui a justement créé l'euro, avait créé l'euro dans l'intention de forcer l'Europe à adopter un fédéralisme. Vous savez qu'avec Mitterrand, il était extrêmement fédéraliste et il était très opposé à la politique anglaise qui ne l'est pas du tout. Et donc, Kohl avait créé l'euro, on a tous un peu ri en disant « Mon Dieu, tout ce que l'Europe sait faire, c'est faire des petits billets pour jouer au Monopoly. » En réalité, c'est un peu plus intelligent que ça. Pour commencer, ça nous a permis de résister aux fluctuations du dollar, nous a permis de former une sorte de front qui avant n'existait pas. Vous savez comme moi qu'avant que l'euro n'existe, l'évaluation française, l'évaluation allemande, l'évaluation espagnole, on n'en sortait plus. Nos commerçants ne savaient plus à quel sens vouer avec ces fluctuations monétaires. On a bloqué la monnaie. C'est déjà quelque chose. Mais attention, le dumping peut survivre dans le domaine social. Quand vous regardez par exemple nos mutuelles, vous avez nos protections, vous avez en France à peu près le même système. En Angleterre, les protections sont infiniment moindres, beaucoup moins de lois sociales sont sorties. L'Angleterre a obtenu à travers l'Europe une exclusion de tout ce qui était social, donc au fond, elle n'est pas obligée de suivre nos consignes. Et vous avez donc la dislocation. Et alors, Kohl fait de la monnaie unique. Mais cela veut dire qu'à ce moment-là, il faut forcément être acculé à du social et du fiscal. Je prends un simple cas. Monnaie unique. Bon, le Portugal ne s'est plus joué sur un abaissement des prix par une dévaluation. Et donc son textile devient malgré tout envahissant parce que le Portugal joue le fiscal. Le textile portugais est à un moment donné très défiscalisé. Et nous avons De Haan, premier ministre à l'époque, qui se dit eh bien, le textile de Belge va complètement s'écrouler avec l'invasion du textile portugais. Que non, dit-il, nous avons prélevé une toute petite parcelle des taux de TVA et accordé 11 milliards de francs belges aux firmes textiles belges pour lutter contre l'invasion du textile portugais. À peine a-t-il fait cela que Van Mier le convoque et dit « tu ne peux pas faire ça, parce qu'on ne peut pas aider un secteur, il faut aider l'ensemble des secteurs. Tu ne peux pas aider la Sabena, tu ne peux pas aider le textile belge, on doit te rendre les 11 milliards. » Mais enfin, ce n'est pas possible. Les Portugais font un véritable dumping fiscal. Ah, ça, c'est exact, le traité ne prévoit rien sur le plan du fisc. Et donc, il faut évidemment fédéraliser le fisc. D'autre part, le social, vous avez vu ce qui s'est passé en Irlande, par exemple, ce qui s'est passé dans certains pays d'Europe. Quand vous pensez qu'en 1994, regardez-moi ça, vous avez la vérification de l'Allemagne qui a été acquise, et vous avez les Allemands de l'Est qui attendent que les Allemands de l'Ouest l'aident. Bon, quel est le tarif d'un ouvrier allemand en 1994? Je l'ai en mémoire en belge. C'était 815 francs belges de l'heure. Les Belges, 715. Les Allemands de l'Est, 550. Moins de productivité, moins de salaire. Les Français, 650. Les Espagnols, 550. De ce fait, Renaud Villevorte s'en va évidemment en Espagne. Ça fait tout simplement 200 francs belges de moins l'heure d'ouvrier. Mais attention, on s'aperçoit soudain que la Pologne libérée a un tarif horaire de 22 francs. Toute l'Allemagne débarque en Pologne évidemment. et voyez passer au-dessus de la main de l'Est les Mercedes, les Volkswagen, tous au pays Bayer, tout le monde part en Pologne. Évidemment. La Tchécoslovaquie était à 33 francs. Nous étions à 715. Impossible de résister à la délocalisation. Ça veut donc dire que le social est extrêmement important. L'Angleterre joue là-dessus. Vous êtes à 35 heures par semaine en France. Vous avez une protection sociale qui coûte cher. En Angleterre, vous voulez rire. Si vous croyez qu'on ne travaille que 35 heures. Deuxièmement, n'est-ce pas, vous avez des gouvernements successifs qui ont quasiment cassé tout ce qui était social. Entre autres, Thatcher, il n'y a plus de syndicats. Ce qui veut donc dire qu'on est absolument en inégalité totale dans la concurrence. Mais ça veut dire que tout ça, Obama est en face de consulter tout ce que l'on peut imaginer comme conseiller. Il est devant aussi des gens invraisemblables. Bon, on aime ou on n'aime pas les républicains, mais quand même il y a 40 millions d'Américains qui n'ont pas de protection médicale, et voilà des gens qui disent on refuse la protection médicale à 40 millions d'Américains. Pourquoi ? Parce que c'est du socialisme ça. En ce sens que ça veut dire que les contribuables vont aider les pauvres, ça c'est impossible. Car nous sommes dans le plein système capitaliste, ce qui veut dire simplement que la machine doit être lancée, le train va rouler, et on s'en fiche des wagons, ça ne va pas suivre. La locomotive américaine ne peut pas être freinée par des lois sociales. Vous vous rendez compte, 40 millions d'Américains qui n'ont pas de sécurité sociale, qui ne savent même pas aller chez le dentiste. C'est absolument intéressant. Lorsque je vais en Amérique quoi, pour parler parfois là-bas, eh bien, mes assurances que je prends avec moi, évidemment, cas de maladie, ça se tombe sous le droit d'assistance, des KB, etc., me disent, si vous avez la moindre chose, vous devez entrer dans un hôpital, vous téléphonez, on vous envoie un avion privé, un petit avion. Ça coûtera moins cher qu'être opéré en Amérique. C'est pas difficile, mais c'est absolument ahurissant. Bon, vous savez comme moi que les Américains ont donc ce problème, mais d'autre part aussi les Anglais ont 4 porte-avions, 125 000 hommes, bah, ils sont vraiment bien armés, magnifiquement. Ils envoient leurs malades chez nous. Parce que chez nous, tout simplement, on ne fait pas la file. Là-bas, les hôpitaux publics font faire la file de 1 an et demi à 2 ans pour une opération de la hanche. On attend pendant 2 ans une opération de la hanche. Donc on envoie les malades anglais ici. Vous vous rendez compte? Par une convention. Cela dit, donc, nous sommes dans un état de situation internationale complètement disloqué. Quel est le but des Américains et des Anglais, très nettement, c'est de supprimer le FEOGA, le Fonds européen d'orientation de garantie agricole, qui garantit une protection pour les paysans d'Europe. En un sens, cela empêche les produits du Commonwealth d'entrer avec une taxe. D'autre part, il y a une taxe qui frappe aussi les produits américains. Si on fait tomber le FEOGA et qu'on transforme une Europe prétendument plus ou moins cohérente en une zone de libre-échange avec frontières ouvertes, c'est la fin des paysans des 27. Des 26, l'Angleterre en main. Vous avez un taux incroyable de paysans en Pologne, partout dans les pays nouvellement entrés. Vous devez dire ce que ça va donner si soudain il n'y a pas de protection sur les prix paysans. Le FEOGA est attaqué sans arrêt par Mme Thatcher, a été attaqué par Tony Blair, a été attaqué maintenant par Cameron. Ils veulent faire sauter la protection agricole. Vous avez donc un véritable chahut qui va se mettre en place en 2012. En 2012, on va devoir revoir le FEOGA. Et vous avez maintenant, en Angleterre, les conservateurs britanniques qui sont encore plus eurosceptiques que Tony Blair. Ça veut donc dire que l'Europe est dans un tel état de faiblesse. L'Europe n'a pas d'armée, puisque la CET a été repoussée par Mendès France en 1953, repoussé par Mendès France, au grand dam de Paul-Henri Spaak, qui en était extrêmement fâché, qui a dit, il m'a dit, moi j'ai été trahi par Mendès France, qui avait promis que la communauté européenne de défense passerait pour pouvoir réarmer les Allemands dans une sorte d'armée générale européenne. Il n'y a donc pas d'armée européenne, il y a l'OTAN. Nous n'avons aucune armée capable de nous défendre. Voilà 450 millions d'individus qui n'ont pas d'armée et qui dépendent des Américains. Ben, il est évident que, vous comprenez bien que Obama dit calmement « Je veux l'entrée des Turcs », Sarkozy est complètement consterné. Vous avez Merkel tout aussi consterné. Et au fond, c'est un chef d'orchestre qui ne peut pas s'embarrasser, en quelque sorte, des difficultés européennes. Puis c'est pas dangereux, l'Europe. ça n'a pas d'armée. Ce qui est dangereux, c'est Poutine. Ce qui est dangereux, c'est la Chine. Ce qui est dangereux, c'est la Corée du Nord. C'est l'Iran. L'Europe, pendant ce temps-là, fait sa ronronne. Ça ronronne et ça descend tout doucement. Vous savez, j'ai très bien connu, moi, l'Europe. Mon frère était chef de cabinet de Jean Rey. Il a été directeur général. J'étais moi-même président des étudiants européens de Belgique. J'ai très bien connu l'Europe à l'époque. Eh bien, il y avait un souffle phénoménal. Maintenant, il n'y a plus de souffle. Vous avez une assemblée de fonctionnaires qui gèrent, et il n'y a plus ce souffle. Vous ne le trouvez plus du tout. Et ce n'est pas même moi qui le dis. Vous savez, Louis Michel s'en est plein aussi. Il m'a dit, c'est devenu être commissaire maintenant à la Commission, c'est obéir à Merkel, Sarkozy, Zapatero. Ça n'a rien à voir avec Delors, avec Einstein, avec Hirsch. Donc, ça veut dire que déjà, nous avons donc là une idée très précise, l'Europe est lentement en train de descendre à un niveau très dangereux. Devant l'éveil de la Chine, devant la continuation d'une politique américaine assez agressive sur le plan économique, devant ce que j'appelle le réveil du gaz et du pétrole russe avec un taux d'expansion de 5 à 6%, eh bien l'Europe se trouve dans un état assez lamentable. En même temps, on est obligé de faire quoi ? Obligé de faire des fonds de réserve pour pouvoir sauver l'euro. Mais ça, c'est pas pensable. Vous voyez, ce qu'il faut surtout faire, c'est surveiller les différents parlements de l'Europe pour savoir ce que l'on fait de l'euro. Il fallait aller voir chez les Grecs ce qu'ils faisaient, il faut voir chez les Bulgares ce qu'ils font, il faut voir chez les Irlandais ce qu'ils faisaient. C'est évident qu'il faut un contrôle fédéral de la gestion des budgets de chaque nation. Vous ne pouvez pas arriver chaque fois après, comme les pompiers, et vous ne pouvez pas sans arrêt mettre des milliards d'euros pour sauver la gestion des Grecs, pour sauver la gestion des Italiens. Comme par hasard, les Allemands sont furibards, ils apportent à peu près 20% des cotisations européennes. Et ils sont obligés d'aider qui ? Les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les Grecs, tout le Sud. Tout le Sud, et ce n'est pas leur client. Les clients des Allemands, c'est pas ça, c'est l'Est. Ce sont les 10 nouveaux qui sont entrés. Leurs anciens clients sont là, porte ouverte. Allez aider les Portugais pour les Allemands, mais c'est aller aider les Latins. Ce sont les pays qui dépendent plutôt de la France. Ils ont été entrés par la France. Les Allemands ont voulu l'entrée de leurs anciens clients, comme les Tchèques, comme disons les Hongrois, comme les Croates qui veulent entrer, parce que seulement ce sont les anciens alliés de l'Allemagne. L'Espagne n'a jamais été un pays protégé par l'Allemagne. Ce qui veut dire que Merkel en a par-dessus la tête, de dépenser son fameux Deutsche Mark à sauver l'argent grec. Et vous avez donc là une politique très dangereuse en Allemagne. Une politique qui veut dire simplement, attention, on ne va pas continuer sans arrêt à jouer les pompiers par rapport à des gens corrompus. Les 10 nouveaux, je reviens de Bulgarie, de Roumanie, mais c'est hallucinant, la corruption règne à tous les étages, à tous les étages. Alors si on fait entrer ces gens dans l'Europe que va devenir l'Estonie ou je ne sais quoi, Dieu sait ce que ça va devenir. On ne peut pas servir chaque fois de caisse de secours. Il faut gérer ensemble et non pas mettre ce que j'appelle des protections financières pour venir au secours de ceux qui gèrent mal. Donc ça veut dire que dans le système de Gaulle, il y avait une volonté fédéraliste extrêmement nette. Et tous les experts vous diront, l'Europe ne peut pas en sortir s'il n'y a pas un contrôle fédéral de la monnaie. On n'est pas encore sorti de l'auberge avant que ça ne passe. Vous savez qu'il faut les éviter. Dans le bloc en question, vous devez dire que ça va donner. Maintenant, nous allons passer directement à vraiment la conférence. Et pour parler d'Obama, il faut parler d'abord de Bush Junior. Vous avez là devant vous une carte que j'adore, c'est la Russie étant privé de toutes ses possessions de l'URSS. Regardez-moi ce qu'il en reste. Ah, cela a l'air très impressionnant, la Fédération de Russie. On est passé de 248 millions d'habitants à 140 millions. Moitié. Non seulement ça, mais à partir du A de Fédération, c'est la Sibérie. C'est-à-dire que c'est la neige. C'est-à-dire que c'est pas très, très habitable. Donc, au fond, la véritable Russie n'est au fond pas très très grande. Hein. Elle est au fond, si l'on veut bien, voilà, on peut dire que là, à gauche de Montrée Rouge, là, vous avez la civilisation. À partir de là, c'est la toundra. Bon. Alors, tout le monde est parti. Tout le monde est parti, fuyant évidemment l'URSS. Et quelque chose m'intéresse très fort dans ma conférence, c'est ça. Et ça, c'est l'ex-islam soviétique. J'aime autant vous dire que là, eh bien, c'est une contrée aussi riche que l'Afrique. On ne compte pas les minerais, on ne compte pas tout ce qu'il peut avoir de précieux. Le Kazakhstan possède tous les minerais du monde, c'est le premier producteur d'uranium, le Kazakhstan. Le Turkménistan qui est là, c'est le quatrième producteur de gaz. Le premier, c'est ici, la Russie. Quatrième ici. L'Ouzbékistan, il y a du gaz et du pétrole. En d'autres termes, c'est extrêmement riche. Les vautours tournent au-dessus. Les vautours. D'abord, quels vautours? Ben les Russes, qui veulent conserver ça. Deuxièmement, les Américains, qui veulent s'emparer de ça. Troisièmement, les Turcs, parce qu'ici, il y a une marée de gens qui sont issus de la même ethnie que les Turcs. Les Turkménistan, le Turkménistan, ça veut bien dire que ça vient du langage turc. Les Turcs disent, on est dans l'OTAN, on va entrer dans l'Europe, venez avec nous. C'est intéressant. Les Turcs deviennent la voie royale pour les Américains pour aller s'emparer de ceci. Tout simplement, le projet Nabucco, le projet de gaz Nabucco, comme vous le savez, le pipeline qui va être construit en 2014, qui se terminera en 2014, va pouvoir amener tout le gaz azerbaïdjanais, le gaz turkmène, aux grandes dames de Poutine super énervé. Parce qu'on enlève aux Russes ce gaz-ci pour l'amener en Turquie et donc en Europe. Si le projet Nabucco voit le jour, comme le souhaite une partie de la Commission et certainement Obama, il est évident que la Turquie entre certainement dans l'Europe, avec un moyen de chantage prodigieux, elle a un pipeline qui amène tout le gaz. Je n'entre pas, plus de gaz. Elle joue à sa petite Ukraine. Hein? Je m'entends avec Poutine, je ferme le gaz. Et donc, résultat, si on donne Nabucco à la Turquie, il n'y a pas de problème, la Turquie entre dans l'Europe. Ce qui est tout à fait contraire à l'idée de Merkel, à l'idée de Sarkozy, qui veut absolument pas entendre parler de l'entrée de la Turquie. Vous devinez donc que Obama s'amène à Paris, à Antenne 2, il y a là notre ami Sarkozy qui est assis, et M. Obama est venu voir les plages de Normandie, et M. Obama déclare clairement, je suis pour l'entrée des Turcs. J'ai vu M. Sarkozy rapetisser encore de 2 cm de rade. On dit aux impondus seulement aux Européens ce qu'ils doivent faire pour aller. Il y a une sorte de désinvolture inouïe de la part de Washington. Voilà comment il faut faire. Notez bien que M. Obama ne peut pas faire autrement. C'est un chef d'orchestre devant un monde complètement délirant. C'est un chef d'orchestre qui a des instrumentistes fous dans tous les sens. Regardez ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe au Liban, regardez ce qui se passe un peu partout, en Iran, en Corée du Sud, Corée du Nord. Vous devinez tout de suite qu'en effet, les instrumentistes ne jouent pas tout juste. Et il faut mettre un orchestre là-dedans en place. Il n'a pas à s'embarrasser de détails pareils. Enfin, moi, j'ai besoin de la Turquie. La Turquie entre dans l'Europe et puis voilà. J'ai besoin de la Turquie pour avoir du gaz, j'ai besoin de la Turquie pour surveiller l'Iran, surveiller l'Irak. La Turquie, c'est un appui très fort pour les Américains, c'est fini. Et maintenant que l'Europe en pense qu'elle peut penser, on s'en fiche complètement. Il n'y a rien à faire pour l'Europe franchir la Turquie. Et vous devinez très bien que c'est un très gros problème pour les Européens. Donc voilà, nous avons donc ceci, les vautours, j'ai parlé des deux principaux, puis il y a la Turquie, puis il y a la Chine, qui n'est pas très loin, elle est là. Elle voudrait bien pouvoir des intérêts ici dans ce gaz et ce pétrole, évidemment. Vous avez alors l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui, c'est là, a déjà assez de pétrole. Mais c'est là, attention, elle est très islamiste. Elle est wahhabite. Ce sont les pires sunnites qui existent sur le plan intégriste. Ce qu'ils veulent, c'est re-islamiser ces musulmans qui sont ici, quelque peu modérés. Ils ont été pendant 73 ans liés au communisme, devinez bien qu'ils sont un peu modérés. Eh bien, il faut les re-islamiser. Et ça, on va essayer de le faire. Et on va le faire avec les talibans. Donc, je passe à la suivante. La suivante. Alors, maintenant, qu'est-ce que les talibans? Voilà donc une carte extrêmement utile. C'est la carte qui vous montre l'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan. Et là au-dessus, il y a le Turkménistan. Le voilà, le Turkménistan. La quatrième production de gaz au monde. Et le Turkménistan, à l'époque où les Russes étaient encore des soviétiques, était évidemment dans l'URSS. Et il n'y avait qu'un seul gazoduc, celui-ci, le A, qui allait directement vers les Russes. Et les Russes vendaient le gaz turcmen. Voilà, point. Le petit problème, c'est qu'on arrive à l'ère Eltsine. Il y a l'ère Eltsine, je vous signale que le Turkménistan est indépendant. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que Eltsine va donc continuer à acheter du gaz turcmen. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas payé. Eltsine, n'est-ce pas, c'est comme un métronome sur ce piano. Toc, 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 corruption, vodka, corruption, vodka. Il est clair que cet homme s'enrichit en donnant à un certain genre de personnage très avide d'argent, dans le genre du directeur de Yukos. Eh bien, Yukos, tu peux acheter Yukos, je te donne Yukos, à condition d'avoir une commission géniale. Et vous avez donc le directeur de Yukos qui vient de recevoir à nouveau une pénalisation en Russie, qui se met à contacter les Américains pour vendre Yukos aux Américains. Ça n'est pas mal quand même, ça. Les bijoux de famille russes vont passer aux Américains. C'est comme bonjour. Ça fait beaucoup d'argent, hein. Bon. Alors, vous devinez ce qui se passe. C'est que Eltsine ne sait rien faire. Il est là, il n'y a pas d'État, rien du tout. Et Eltsine ne sait pas payer le gaz turcmen. Il n'a pas d'argent. Les impôts ne rentrent plus. Il a supprimé le Parti communiste. C'est une très bonne idée, ça. À part le fait qu'au bout de 73 ans, toute l'administration était communiste. Vous supprimez le parti, il n'y a plus d'administration. Donc, au fond, les impôts ne rentrent plus. Les Turkmènes se trouvent sur une richesse fantastique du sous-sol. Ils ne sont même pas payés. Ce sont les plus pauvres de l'époque, là-bas dans la zone, et ils sont sur la quatrième réserve de gaz au monde. Alors évidemment, ce que le comble, c'est que Eltsine prend le gaz turcmen et le donne aux Ukrainiens contre du blé. Les Russes mangent du blé, les Ukrainiens ont du gaz et les Turkmènes meurent de faim. C'est un peu fort. Hein. Les Turkmènes s'adressent à l'Iran. Ah, ils sont indépendants. Hein. S'adressent à l'Iran. Voulez-vous bien nous accorder la construction d'un gazoduc qui descend dans les mers chaudes, où là, on peut vendre à l'Occident? Ah, l'Iran dit oui. Ça, j'aime autant vous dire que l'Iran dit oui tout de suite. Les ayatollahs aux anges. C'est déjà des productions de gaz et de pétrole immenses, l'Iran. Si on a encore en plus tout le gaz turcmen, on pourrait évidemment faire des bénéfices colossaux sur la vente en tant que courtier de transfert et en tant aussi que de royalties payées pour l'entretien du gazoduc. En plus, on va devenir incontournable. C'est-à-dire, vous devinez bien, c'est une puissance gazière colossale, l'Occident n'a qu'à bien se tenir. Les gens ne dorment plus à Washington. Les présidents américains ne dorment plus à l'idée que l'Iran aurait le gaz turcmen. Je vous signale que entre les amis du dessus ici, le gaz est payé $50 les 1000 mètres cubes. Donc si les Turkmènes étaient payés, ils toucheraient $50 les 1000 mètres cubes. Ils ne sont pas payés, c'est un détail. S'ils amènent leur gaz là, ce gaz est payé à $230 les 1000 mètres cubes, le prix international. C'est-à-dire que c'est fou, c'est 5 fois plus si on arrive dans le sud. Alors oui, les Turkmènes veulent absolument arriver dans le sud. Oui, mais là, les Américains ne veulent absolument pas de ceci. Et vous avez, à ce moment-là, Washington qui décide qu'on va faire autrement. Ils disent aux Turkmènes, ne vous en faites pas, on s'occupe de tout. Il suffit de pacifier l'Afghanistan et on vous crée un gazoduc qui traverse le Pakistan, notre allié. En effet, le Pakistan était l'allié des Américains contre les troupes soviétiques de Brejnev qui voulaient prendre l'Afghanistan. Que voulaient faire les Russes ou les Soviétiques de Brejnev? C'est descendre jusqu'ici avec tout leur gaz et leur pétrole et aller ici dans les mers chaudes vendre aux Occidentaux. Ça n'a pas marché. Il y a eu une résistance des Afghans, une résistance des Américains et des Pakistanais. 600 000 soldats soviétiques ont lutté pendant 8 ans pour s'emparer de l'Afghanistan. On les a renvoyés chez eux. On a actuellement 135 000 Occidentaux en plein marasme dans l'Afghanistan. Aucune possibilité de pacifier l'Afghanistan. Ce n'est pas un pays, c'est une zone tribale. L'Afghanistan a été créé par les Anglais et par les Tsars pour éviter de se battre sans arrêt aux portes de l'Inde. C'est une multitude de tribus et d'ethnies. Aller pacifier ça, avec des montagnes colossales. Ce qui veut donc dire que bonne chance. Alors, je vous signale que donc on va créer ce gazoduc en principe. Alors, on va le créer comment? Il faut pacifier l'Afghanistan. Ça, c'est exactement comme si je vous disais, on va vider la mer du Nord avec une louche à soupe. C'est la même chose. C'est complètement, c'est un rêve à l'américaine. Excusez-moi, je n'ai rien contre les Américains, mais ils sont à, attention, ils sont à 7000 km d'eau salée de cet endroit-là. Ils ne connaissent rien là-dedans. Ce qui veut donc dire qu'ils rêvent. L'Afghanistan, pour eux, c'est une zone qu'on peut pacifier. Comme l'Irak, c'est facile à pacifier, l'Irak. Hein. Ah oui, un jour à la RTB, que j'étais conseiller à la RTB, on me dit, à un moment donné, est-ce que vous êtes pour l'entrée des troupes américaines en Irak ou pas? Je dis calmement, ce sera très facile à conquérir. Ce sera ensuite l'enfer. Parce que l'Irak contient à peu près 15% de sunnites, 60% de chiites et 20% de kurdes. Les kurdes sont des indo-européens qui détestent les arabes. Ils veulent l'indépendance. Les chiites détestent forcément les sunnites et réciproquement. Donc, quand les Ottomans ont occupé l'Irak, ils ont créé 3 provinces. Ça a marché très bien. Mais les Anglais, en 1920, ont créé l'Irak parce que c'était le grand point pétrolier. Et ils ont mis à la tête un roi sunnite, un hachémite, Faisal Ier, Alec Guinness. Dans Laurence d'Arabie, c'est Alec Guinness. Ils ont amené 100 000 soldats supplétifs de l'Inde, des Gourkhas et des Marathes, des Hindous, pour vaincre les chiites en pleine révolution contre le roi sunnite. Par parenthèse, ils ont massacré plus de chiites que Saddam Hussein. Il y aurait eu un TPI à l'époque, il y avait des généraux britanniques qui étaient pendus demain matin. Ça ne fait pas l'ombre d'un pli. Massacre des chiites. Hein. Détail. Bon. Eh bien, ça veut dire que l'Irak, c'est pas possible. Alors un matin, deuxième conquête de l'Irak, n'est-ce pas? Deuxième guerre de 2003. Je suis à RTL le matin. Et j'étais correspondant unique, donc consultant unique sur toute la guerre de l'Irak à RTL. Et il y a un jeune journaliste, comme ça, tout frais et moulu, avec deux grands yeux bleus, hein, qui me pose une question complètement idiote. Laquelle? Il y avait 15 jours, les Américains étaient entrés. Et ils étaient déjà arrivés à peu près à la moitié de la route vers Bagdad. Mais ils s'arrêtent. Et les journaux français, les journaux allemands, les journaux belges, contre la guerre d'Irak. Pavoise. On avait bien dit que ce serait difficile, il ne fallait pas y aller. Regardez un peu ce qui se passe là-bas maintenant. Ah ah, les Américains qui nous ont traités de traîtres, regardez comme ils sont bloqués. Et on me demande le matin, rendez compte de la situation des Américains. Je réponds, les Américains? Pas du tout, ils s'arrêtent parce qu'ils sont en train de se ravitailler, ils vont trop vite. Il faut amener les munitions. Il faut amener l'essence et il faut amener les soldats et la nourriture. C'est exactement comme Rommel et comme Guderian attaquant tellement vite l'armée française pour aller à Dunkerque qu'il a fallu arrêter par deux fois l'armée allemande pour la ravitailler. Ils se ravitaillent. Ah bon? Ils n'ont pas d'ennuis alors? Non. Comment voulez-vous qu'ils aient des ennuis? Il y a des satellites qui surveillent le sable. Dès qu'un char irakien apparaît, on le massacre avec des hélicoptères anti-fusées. Il n'y a plus personne qui s'est bougé dans le désert. Résultat, les Américains foncent. Quand croyez-vous qu'ils vont arriver à l'heure à Bagdad, monsieur? Ça, c'est la question idiote. J'ai eu envie de dire, il faut aller voir une voyante à la gare du Midi. Et puis non, je réponds calmement, à peu près dans un mois. Je suis convoqué par la direction générale d'RTL le matin même à 11h. Monsieur Rivlin, on vous a pris comme conseiller exclusif parce qu'on sait que vous connaissez bien ces matières. Mais vous venez de dire ce matin quelque chose quand même assez extraordinaire. Tout le monde dit que ce n'est pas possible et vous dites tout dans un mois. Alors, d'accord, si c'est votre responsabilité, nous, on veut bien, vous serez ridicule dans un mois, vous. Mais nous aussi, puisque c'est vous qui êtes chargé de traiter de la guerre d'Irak et qu'on vous a choisi. On va avoir l'air idiot, nous, à la RTL. Non, non, non. Je vais vous expliquer ça, mais ce midi, quand on me repose la même question, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Il y a 13 heures, on me pose la question. Simple comme bonjour, vous savez. Il y a 60% de chiites qui veulent la mort de Saddam Hussein. 60% de moins. 20% de Kurdes qui veulent la mort de Saddam Hussein. 80% de moins. Il reste 20% de la population. Il y a 5% de chrétiens, de turcomans et de juifs. Il reste 15% de sunnites. Vous enlevez les femmes, les vieillards et les enfants. Il reste 7,5% de sunnites à la disposition de Saddam Hussein. Or, comme vous avez 23 millions d'Irakiens, 7,5%, ça fait très peu. 10%, ça fait 2 300 000. Bon, on est à 7,5%. Vous croyez véritablement que la Wallonie pourrait résister à 4 porte-avions, à toute l'aviation américaine et 135 000 Américains qui débarquent en Wallonie dans un mois? Charleroi et Liège sont occupés. Et patatras, ils sont entrés 28 jours après, j'ai reçu une pièce de champagne. Mais c'est élémentaire. Il ne faut pas être un génie pour ça. Il suffit de connaître les statistiques, c'est tout. Comment voulez-vous que Saddam Hussein puisse résister à ça? Mais j'ai dit aussi, après, ce sera l'enfer de Dante. L'enfer de Dante. Les Iraniens vont aider les chiites. Les chiites sont localisés sur quoi? Sur 2/3 du pétrole irakien. 2/3 du pétrole. Et les Kurdes, eux, sont sur le dernier tiers. Les sunnites n'ont pas une goutte de pétrole. Ils ne vont jamais admettre qu'il y ait une séparation. Ils veulent garder un pays en partageant le pétrole. Or, les chiites voudront prendre le pétrole, les Kurdes aussi. Donc, vous êtes dans une guerre civile éternelle. Et attention, c'est vrai qu'il n'y a que 15% de sunnites. Attention, il y en a 67% en Syrie. Non, tant qu'on en veut en Turquie, l'Arabie saoudite va arriver avec tout son pétrole et son pétrodollar, va former une armée sunnite. Ne croyez pas que le sunnite va rester à 15%, ils sont déjà à peu près 30% maintenant avec Al-Qaïda et tout le reste. Et les Iraniens vont aider, évidemment, les chiites iraniens. Et vous allez avoir la Turquie très inquiète devant les Kurdes. Il y a 120 000 soldats kurdes à la frontière irakienne au cas où les Kurdes irakiens deviendraient un peu trop indépendants et pourraient peut-être bien aider les Kurdes turcs. 120 000 soldats turcs sont prêts à entrer en Irak demain matin. Le climat dans lequel on est. Et on part dans un an. Je vous assure qu'on va avoir un problème. Cette libération, n'est-ce pas, d'un peuple soumis à un dictateur, eh bien, on a obtenu une chose très claire. C'est que toutes les femmes sont maintenant voilées à Bagdad, elles n'étaient pas voilées sous Saddam Hussein. C'est comme ça. Voilà. Bon. Alors, on va donc trouver des alliés. Alors, les talibans. Qu'est-ce que les talibans? Taleb veut dire un étudiant coranique. Les talibans, les étudiants coraniques. Il ne faut donc pas d'ess, parce que le AN est déjà le pluriel. Quand j'écris un article dans une revue, le rédacteur en chef, à chaque coup, au téléphone, M. Riffley, il manque des S à votre taliban. Je dis, ah non, il ne faut pas d'S. On va quand même le S, les gens croiront qu'on fait une faute. C'est comme ça qu'on enseigne aux gens comment on traite les langues étrangères. Les talibans sans S. Bon. Les talibans, on a été les chercher pour lutter contre Brejnev. En effet, les Américains sont arrivés au secours des Afghans, bien sûr. Les Américains n'ont aucune envie que Brejnev arrive, évidemment, jusqu'à Karachi. Ça me semble clair. Et donc, on a armé les Afghans via le Pakistan. Et on a demandé de l'aide à l'Arabie saoudite. Un peu d'argent. Les Saoudiens ne demandaient pas mieux. Vous avez les communistes athées qui attaquent des musulmans. L'Arabie saoudite offre ses bonnes œuvres. Mais non seulement cela, l'Arabie saoudite installe 150 écoles coraniques le long de la frontière ici, n'est-ce pas, pakistanaise, et se met à enseigner le Coran excessif à la jeunesse pakistanaises et afghanes. On forme les talibans, qui forment un fer de lance militaire fanatique contre les athées communistes. On gagne la guerre. Les talibans s'endorment tout doucement, comme ça on le laisse là, quoi. Ils marinent. Mais l'Arabie saoudite reste là et continue, bien sûr, son travail de wahhabisme. Eh bien, on va aller, tout simplement, pour aller chercher le gaz turmène, on va aller chercher la tribu des Pashtuns. Les Pashtuns, c'est en vert. 40% de la population de l'Afghanistan. Et ce sont précisément dans les Pashtuns que se trouvent les talibans. On va donc aller réveiller les talibans, nous, les Occidentaux, pour aller chercher le gaz turmène. Et les talibans sont lancés vers le nord pour aller pacifier l'Afghanistan. La tête de ceux qui ne sont pas pashtuns, là se trouvent les Tadjiks afghans avec le commandant Massoud. Là se trouve le général Dostum avec les Ouzbeks afghans. Là se trouvent les chiites, il y en a 20% de chiites en Afghanistan. Ils luttent désespérément contre les talibans, contre les talibans. Ceux-là qui étaient avec nous contre Brejnev demandent l'aide de Poutine pour lutter contre nos soldats talibans formés par les Américains. Massoud devient anti-américain. Et une division russe s'installe au Tadjikistan. Poutine étant évidemment complètement furibard à l'idée qu'on va aller voler tout son gaz turpène. C'est clair. C'est clair. Je vais vous demander simplement ceci. Vous allez vous mettre à la place du Kremlin pendant une demi-heure. Je vous poserai une question dans une demi-heure. Est-ce que vous êtes nerveux? À mon avis, votre taux de tension aura monté jusqu'à 18,5. Attention, je vais vous dire, est tout à fait à l'envers de la bonne conscience occidentale. Vous allez voir. Écoutez bien. Donc, on lance les talibans vers le nord. Les talibans immédiatement suppriment l'éducation de toutes leurs femmes, leur mettent des burqas, interdiction de faire de la musique, interdiction de ceci, ben c'est la catastrophe. Ce sont nos alliés pour aller chercher le gaz turpène. N'importe qui, n'importe quoi. Et ils avancent, complètement aidés par les conseillers américains. Ils avancent. Mais ils deviennent complètement infréquentables. Ils vont faire sauter deux splendides statues de 2000 ans d'âge bouddhique. Paf! Toute l'Asie entre dans une colère folle. Les bouddhistes, qui sont quand même 500 000, entrent en révolution totale contre les États-Unis. L'Inde commence à s'émouvoir. La Chine se met à rugir. Et on dit à M. Clinton, à l'époque c'est Clinton, si vous continuez, c'est pas difficile, n'est-ce pas? On fait un embargo colossal sur les produits américains. Ouah! Fini les Boeing. Fini tout ce qu'on peut vendre à l'Asie. Embêtant. En plus de ça, il existe aux États-Unis quelque chose de pire que la bombe atomique. Ce sont les ligues féministes. Très puissantes. Hein? Regardez Madame Palin. Regardez-moi ça, Hillary Clinton. C'est pas rien, hein, les ligues féministes. Et elles disent à Clinton, si vous continuez à être les alliés de gens transformant leurs femmes comme ça, on vote républicain aux prochaines élections. Clinton s'arrête net. Les talibans sont tout seuls. On les lâche. Ils vont revenir à notre mémoire bientôt, les talibans. Maintenant, c'est nous qui avons formé les talibans. Et on les laisse comme ça, voilà, allons-y. Voilà. Et attention quand on dit on laisse les talibans. Ça veut dire simplement qu'à ce moment-là, comme on les lâche, eh bien tout simplement, ils vont s'organiser. Ils vont s'organiser, et ici dans le Nord, vous avez la survie de l'Alliance du Nord, qui fait ce qu'elle peut pour survivre avec les talibans qui occupent tout le centre et le sud. Alors, une idée prodigieuse vient à Clinton. Celle-là, elle est excellente. C'est aller chercher le gaz turmène par là. C'est-à-dire sortir avec un flexible sous la mer Caspienne et sortir ça à Bakou en Azerbaïdjan. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est très bien. Directement vers l'Occident. Le problème, c'est que le président turkmène, il a une frousse panique de Poutine. Poutine lui a dit, tu fais ça, j'enlève tout ce qui est russe dans ton pays. Or, tout est russe. 73 ans de soviétisme. Les rails sont russes. Les hôpitaux sont russes. L'électricité est russe. Les universités sont russes. Et tout est russe. Tu vas être tout nu. Résultat, tu peux toujours essayer de recomposer ton pays. Je vais sévir. Et le président turc n'ose pas bouger. Donc le plan échoue. Le plan échoue, mais attention, il se repose maintenant en 2010. Hein, c'est reparti. Ça, vous allez voir. Poutine nerveux en 2010. Donc, voilà Bakou, mais pour ça, il faut acheter Bakou. On va donc lui donner quelques bons petits millions de dollars et l'Azerbaïdjan se détache de la Russie de Poutine et on va faire construire en Azerbaïdjan un magnifique oléoduc. Ah, magnifique oléoduc, le voilà. Il part de Bakou, il capte 2 millions de barils par jour. Et pour ça, on a dû passer par là, jusqu'en Turquie, jusqu'à Séan, où le gaz, pardon, où le pétrole arrive dans la Méditerranée. Pourquoi a dû-on faire ce petit voyage? Parce que, comme l'Azerbaïdjan est passé aux Américains, Poutine protège les Arméniens. On entre dans un beau jeu, hein? Poutine aide les Arméniens, donc on ne s'est pas passé à travers l'Arménie. En plus, les Arméniens ont horreur des Turcs. Donc, on ne s'est pas passé par l'Arménie. On va donc passer par la Géorgie. Ah oui, mais pourquoi pas? La Géorgie, la voilà. Elle est là, la Géorgie. Voilà l'Azerbaïdjan, voilà la Turquie. Le problème, c'est que la Géorgie est dirigée par Shevardnadze. Shevardnadze, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères de Gorbatchev. Pro-russe, forcément. Bien. Ben, c'est pas difficile. On va financer les élections suivantes. Des milliards de dollars s'amènent en Géorgie, évidemment venant de fonds discrets des compagnies pétrolières américaines et anglaises. Évidemment, avec ces milliards de dollars, pouf, les élections sont inversées et on place un président qui a fait ses études aux États-Unis, qui parle l'anglais comme un Américain. Et la Géorgie pivote et devient pro-américaine. Les Russes sont priés de partir et on met trois bases américaines militaires. La tête de Poutine. Poutine immédiatement expédie tous les Géorgiens qui travaillent en Russie en Géorgie. 1 million de Géorgiens retrouvent la Géorgie. Géorgie qui prend ça très très mal parce qu'il y a déjà 15%. 15% de gens qui sont en chômage reviennent 1 million de gens qui apportent de l'argent à la Géorgie. C'est la catastrophe. Et évidemment, Poutine se met à protéger l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie qui n'ont jamais voulu être géorgiens. Ça devient les enfants chéris de Poutine qui attend son heure. Et on va donc faire passer à ce moment-là, voilà, vous avez l'oléoduc, excusez-moi, l'oléoduc, je suis en train de... Voilà, c'est ça. Vous avez l'oléoduc qui va passer. Voilà. Vous comprenez pourquoi les Américains adorent la Turquie? Et ça? Vous comprenez pourquoi les Américains adorent la Turquie? On va aller chercher bientôt le gaz et le pétrole turbain, passer par le Nabucco. La Turquie est vitale. C'est clair? Bon. Je continue. Voilà la magnifique Turquie. Regardez cette voie royale pour aller piller les réserves ex-soviétiques. Regardez ça. Directement, mais directement, le pétrole et le gaz va couler vers l'Europe et on pourra donc se passer du gaz russe. Les Russes qui livrent par l'Ukraine et par la Biélorussie, on pourra s'en passer. On aura tout le gaz turcmen et on pourra donc ruiner la Russie. On n'aura plus le moyen de chantage de Poutine. La Turquie est donc un moyen parfait pour ruiner Poutine. D'où Poutine ne veut évidemment pas que la Turquie ait Nabucco. Ça vous comprenez peut-être immédiatement. Bon. Alors, Nous allons donc continuer comme ça l'exploration. La Turquie. Ça, c'est une belle paire de manches. Parce qu'attention, c'est un des grands problèmes d'Obama, tout ça. Je parle sans arrêt des problèmes d'Obama, nés des problèmes de, évidemment, Bush. Ça, c'est le plan le plus ignoble que jamais la démocratie a pu imposer à un pays comme traité de paix. C'est la malheureuse Turquie après 1918. Elle est carrément, par le traité de Montreux, elle est complètement déchiquetée. Les Français ont obtenu la Syrie comme vainqueur. Allons-y. Et ils obtiennent ceci comme zone d'influence française. Les Anglais ont pris l'Irak. Les Kurdes, nos alliés, ont obtenu un royaume. Les Arméniens, qui ont un peu collaboré avec les Russes et qui sont des chrétiens, obtiennent un territoire phénoménal avec même un grand morceau de Lénine. Lénine est quand même notre ennemi. Servez-vous les Arméniens. Bon, en réalité, l'Arménie est explosive. Regardez-moi ça. Fantastique. Les Italiens, nos alliés, ont reçu tout ça, toute la partie balnéaire. Quant aux Grecs, nos alliés, ils ont reçu toute l'Asie mineure et la Thrace. Qu'est-ce qui reste aux Turcs? Ça. Ça va? Ça, sous surveillance. Et la véritable petite partie indépendante, c'est ça. Et vous vous rendez compte ce qu'on a fait à la Turquie? C'est invraisemblable. Évidemment, là, il y a le vieux sultan prisonnier à Istanbul. Et il est là, avec, entouré de ses danseuses, mangeant ses loukoums. Et les Anglais occupent enfin le Bosphore. Pourquoi est-ce que les Turcs ont choisi les Germains comme alliés en 14-18? Parce que les Anglais, ici, et les Russes là-bas, du Tsar, n'ont pas cessé de financer les révoltes des Balkans contre les Russes pour s'emparer du Bosphore. Le Tsar pour faire passer sa flotte, les Anglais pour empêcher le Tsar de passer. Tandis que les Allemands ne s'occupent pas du tout du Bosphore, les Autrichiens ne s'occupent pas du Bosphore, ils n'ont rien à faire en Méditerranée, ces deux pays. Donc on a choisi les Allemands. Malheureusement, les Allemands ont été vaincus. Donc la flotte anglaise est là. C'est merveilleux. Et évidemment, ravitaille les Russes blancs contre Lénine. Ça va la position? Bien. Mustafa Kemal est resté en place. Mustafa Kemal, c'est le héros absolu. Il a coulé les bateaux anglais et français dans les Dardanelles et Churchill, qui était lord de l'amirauté, a dû démissionner. Il a repoussé un co-expéditionnaire gigantesque arrivant à Gallipoli. Le raid de Churchill était arrivé à Istanbul par la mer. C'est fichu. Il a gagné. C'est un héros absolu. Il a battu les alliés. Il est laissé près du sultan, c'est étonnant. Non, c'est pas étonnant. Les Anglais ont un aspect très fair-play en militaire. Ils ont adoré Rommel. Rommel, par son astuce, le renard du désert, l'adversaire de Montgomery, a été très prisé par les Anglais. C'était pas un hitlérien, c'était un général. Et les Anglais ont considéré que c'était un homme, Mustafa Kemal, qui n'avait pas fait de mal aux prisonniers, qui était un général honnête et extrêmement doué. Il le laisse près du sultan, alors que les autres généraux qui ont commis des crimes de guerre sont enfermés à Chypre pour être jugés. Et voilà que les Anglais vont dire ici au sultan, « Dites, mon ami le sultan, on vous a laissé une forte gendarmerie ici. Il faudrait quand même un peu veiller à ce qu'il y ait un peu moins de troubles dans le pays. Vous devinez la tête des Turcs devant ce traité. On s'étonne qu'il y ait des résistants. » Et je ne sais pas si c'est de l'humour de la part du sultan, c'était déjà gâteux, mais il demande calmement à Mustafa Kemal d'aller mettre de l'ordre. Mustafa Kemal prend un petit bateau, il fait ceci et il débarque là. Il prend la tête de la rébellion. La tête. Il lève 300 000 hommes. 300 000 hommes. Pour libérer la Turquie. La tête des Anglais. Mais 300 000 hommes, 300 000, je veux bien, mais où sont les fusils? Où sont les mitrailleuses? Où sont les canons? Où sont les uniformes? Qui va payer ça? Ça, c'est une question à 10 000 euros avec une Peugeot 206 qui attend devant la maison. Qui va payer l'armée turque? Les Russes. Lénine va financer toute l'armée de Mustafa Kemal, que Mustafa Kemal va attaquer les Anglais, qui bloquent justement le Bosphore et qui nourrissent les armées du Tsar. Et les Turcs, pendant un an, porteront une petite étoile rouge sur leur vareuse en remerciant Lénine. Mustafa Kemal, qui est un général génial, évidemment, chasse tous les Arméniens. Attention, c'est pas lui qui a tué les Arméniens. Hein. C'est pas lui. Hein. Ce sont les sultans ottomans. Lui, il chasse simplement les Arméniens, il les évacue. Évidemment, les Turcs, les Kurdes ici passent un très mauvais quart d'heure. Les Français refluent à toute vitesse. Pourquoi? Ils ont démobilisé, ils n'ont pratiquement plus de troupes. Ils quittent. Les Italiens, je ne plaisante pas, ne sont pas encore arrivés. Ils sont en train d'être des maillots de bain. Quant aux Grecs, ils ont traversé la mer Égée en kayak, à toute vitesse. Rendez compte, l'Asie mineure, ils récupèrent l'Asie mineure et ils s'installent à Smyrne. Oh, c'est merveilleux. Oui, mais voilà que les 300 000 Turcs vont vers l'ouest. Aïe, 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 qui va défendre le Bosphore? Les bateaux anglais. Ça tire à 30 km. Il suffit que les troupes turques s'arrêtent à 35 km et la Turquie est libérée. Et c'est intenable, rester dans le Bosphore comme ça avec une récupération par les Turcs de la Turquie. On va donc trouver des fantassins. Qui ça? Les Grecs. On va donc, nous, armer les Grecs contre les Turcs. Et c'est la guerre. Mais attention, ce qui est tout à fait fabuleux, hein, ça. Très peu de gens vous diront ça. L'armée grecque va être complètement contaminée par les communistes grecs. Pourquoi? L'armée est soutenue, ici, l'armée turque est soutenue par Lénine. Lénine donne l'ordre aux communistes grecs de semer la pagaille dans l'armée grecque. C'est à tel point que des communistes grecs vont organiser le rapatriement des déserteurs vers la Grèce. C'est merveilleux. Mustafa Kemal gagne. Un combat atroce. Vous devinez, les Turcs n'ont plus que cette chance-là de survivre. Ils perdent cette guerre et sont morts. Et les Grecs ont cette chance-là de battre, évidemment, un peuple qui est 10 fois plus nombreux que lui. Ils attaquent un taureau blessé, on va essayer d'achever le taureau. Épouvante. Et les Grecs perdent. Smyrne se met à brûler. Et on demande à Mustafa Kemal, est-ce qu'on peut laisser brûler Smyrne? Eh bien sûr, dit-il. Ils verront Smyrne brûler sur la rive d'en face, ils ne reviendront plus jamais. Vous devinez le climat. Mais alors, les Anglais, qui sont géniaux en politique habile, se disent, ce gars est un diable d'homme. Ce Mustafa Kemal, c'est inouï. Il nous a battus dans les Dardanelles, il nous a battus à Gallipoli, il est en train de remonter toute la Turquie. C'est un gars extraordinaire, ce bonhomme. Et on s'en est fait un ennemi. C'est ridicule. L'ennemi, c'est Lénine. Donc, on devient l'allié de Mustafa Kemal. Et tout pivote, et vous avez le traité de Lausanne en 1922, qui redonne toute la Turquie à Mustafa Kemal. C'est gagné. Mustafa Kemal est un dieu. Le cénotaphe, disons le caveau, n'est-ce pas, à Ankara, de Mustafa Kemal, c'est le Parthénon. C'est gigantesque. C'est quelque chose. On sent qu'il y a un frémissement presque de foi des Turcs vers cet homme Dieu. Et il s'installe au pouvoir. Et là alors, c'est à peine croyable. Il convoque tout le Parlement. Vous êtes le Parlement turc. Attention, vous êtes 300. Parlement turc. J'arrive devant vous en uniforme. Et je fais comme Napoléon. Je dis, voilà, mon frère surveille la rue, n'est-ce pas? Pour votre sauvegarde, messieurs les parlementaires, veuillez voter ce qui suit. Et en effet, l'armée occupe la rue parce que c'est pour la sauvegarde du Parlement, on n'est pas encore tout à fait sauvé, n'est-ce pas? Veuillez voter ce qui suit. Si vous êtes parlementaire, il vaut mieux dire oui. Hein? Oui. Hein? Écoutez bien la liste. C'est à peine croyable. Suppression de tous les tribunaux coraniques. Suppression de toutes les écoles coraniques. Suppression de l'écriture arabe remplacée par l'écriture latine. Suppression de tous les vêtements à caractère orientaux. Introduction du code civil suisse. Introduction du code pénal italien. introduction de la musique classique, la classique européenne, et interdiction de jouer à la radio de la musique musulmane. Il est temps de se débarrasser de cette religion sotte des Bédouins. Vous rendez compte, dites. Et le droit de vote des femmes en 1925. C'est fou. Un coup de laïcité total. C'est la loi de 1905 française, copiée, lettre pour lettre. C'est inouï. C'est le seul pays, la Turquie, avec la France, à avoir un gouvernement laïque. Le seul pays. Un gouvernement totalement laïque, loi de 1905. Bon. Bon, bon. Et vous devinez que là, il entre dans l'OTAN, etc., il devient un grand ami de l'Occident. Le problème, c'est que tout parti islamiste est interdit. Quand il meurt, l'armée prend le pouvoir et s'estime dépositaire du testament laïque. Pour devenir officier dans l'armée turque, il faut être laïque, passer un examen laïque, à la française, hein, examen de neutralité. Et le Conseil suprême, où il y a en majorité des grands officiers turcs, surveille les partis. En 1995, le parti Refa, parti islamiste, arrive au pouvoir. Il veut le voile à l'université. Il commence à proférer des tas de choses. Dissous, terminé. Bon, c'est comme ça. Mais la démocratie s'installe lentement. Il y a des trahisons. Un parti conservateur, non religieux, conservateur, non islamiste, va accepter de partager le pouvoir avec un parti islamiste. Bon. Et voilà que, en 2002, grâce à ce que j'appelle ces fluctuations démocratiques, va naître l'AKP, l'actuel parti qui dirige la Turquie. Le chef est Erdogan. Il faut savoir que le chef du Refa, qui était le parti précédent qui a été dissous, s'appelait M. Erbakan. Et M. Erdogan était le lieutenant d'Erbakan. C'est donc, l'AKP est un double du Refa. Et l'autre lieutenant s'appelait M. Gül, le président actuel de la Turquie, qui faisait partie du Refa. Vous me suivez? Immédiatement, on commence à avoir un certain frémissement d'inquiétude dans la laïcité turque. J'aime autant vous dire, aïe, 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 qu'est-ce qui va se passer? Et M. Erdogan se surpasse. Il a déclaré trois phrases. En 1992-93, quand il faisait partie du Refa, il a déclaré, la démocratie n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'arriver. Il faut pouvoir descendre à l'arrêt désiré. C'est rassurant. Deuxièmement, 1,5 milliard de musulmans attendent que le peuple turc se réveille. Avec l'aide d'Allah, le moment est arrivé. Et le sommet, en 2002, depuis le balcon de la mairie d'Istanbul, dont il est le maire, il proclame gentiment « Nos minarets seront nos baïonnettes, nos coupoles seront nos casques, nos mosquées, nos casernes pour établir l'islam. » Immédiatement, les militaires le punissent de 5 ans de non-éligibilité. Mais le Parlement arrive au pouvoir et il est islamiste. Résultat, le Parlement dit non, il reste au pouvoir. Il fallait alors une opération extrêmement compliquée, les militaires dirent on va attendre qu'il fasse encore un faux pas. Conflit direct entre l'AKP et évidemment les militaires. Donc, l'AKP veut supprimer les militaires. Ça, c'est clair. Le Parlement européen a voté, à l'époque, deux motions. Première motion, nous nous réjouissons de la volonté d'écarter les militaires. Parce qu'aucune démocratie ne peut vivre avec le civil dominé par des militaires, ce qui est exact en Europe. Mais là, c'est la catastrophe. Donc, M. Erdogan obtient l'appui de l'Europe pour liquider les militaires. Vous me suivez? Il vient de faire passer un référendum qui va supprimer le Conseil supérieur militaire. L'Europe a applaudi. Elle vient d'applaudir. C'est inouï.
C'est invraisemblable, mais c'est comme ça. Bon, avec les Américains qui veulent que ça entre, et deuxièmement, ensuite, le Parlement européen qui dit on est d'accord, sauf les Français et sauf les Allemands qui sont contre. C'est important. Si la France et l'Allemagne disent non, ils n'entreront pas. Mais il faut suffire. Il suffirait simplement que Sarkozy perde les élections, Merkel aussi, pour remplacer ça par Ségolène Royal, ils entrent. Ça me semble clair. Hein, ça, il ne faut pas s'en faire. C'est un temps, une petite durée. Bon, voilà pour la Turquie, vous avez dit bien, où est le péril d'installer là-dedans Nabucco ? Vous commencez à comprendre pourquoi c'est un gros problème. Bien, je continue, je fais le tour. Mais ça, c'est un détail. Voilà la Turquie, vous avez de nouveau tout le plan général, la mer Caspienne qui est donc là, vous l'avez là, la mer Caspienne qui est donc, et là je suis en train de faire l'inverse, je suis habitué à faire ça, la mer Caspienne qui est là, et donc voilà, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est d'attirer les Turkmènes. Eh bien, c'est fait. Le successeur a été attiré par les dollars. Et le successeur a décidé de passer son gaz, eh bien, à l'Europe. Voilà. Et M. Barroso, il y a 8 jours, a été en Azerbaïdjan recevoir un accord, comme quoi l'Azerbaïdjan allait irriguer de son pétrole et de son gaz, éventuellement turkmène, l'ensemble de l'Europe passant par Nabucco, M. Barroso. Et voilà, c'est fait. Vous êtes Poutine au Kremlin. Vous êtes content ? Un peu nerveux, non ? Un peu nerveux ? Non, je crois bien. Hein ? Bon, c'est pas fini. C'est que tout simplement, il y a l'Ukraine là au-dessus. Il y a déjà la Géorgie qui est en problème. Hein ? L'Ukraine là au-dessus. Et voilà que l'Ukraine souhaite se débarrasser de la pression russe. En effet, l'Ukraine est un pays très curieux, gigantesque. Hein. La partie gauche est uniate, c'est-à-dire ce sont des catholiques, dépendants de Rome, avec, disons, un rite orthodoxe. Ils ont donc l'iconostase, mais ils dépendent de Rome. Et à droite, ce sont les orthodoxes, pro-russes. Et ils sont, je dirais, pratiquement moitié-moitié. Les Ukrainiens de l'Ouest veulent rejoindre l'Europe. Comment voulez-vous que Moscou permette une chose pareille ? Hein ? Bon, l'Ukraine va entrer dans l'Europe et dans l'OTAN. Dans l'OTAN, c'est-à-dire que Moscou est là, l'Ukraine est là. C'est comme si les Russes arrivaient au Canada, la tête de Washington. Les Russes s'installent au Canada. C'est pas beaucoup plus loin, hein. Mais c'est inouï quand même. Oui, on ne dit jamais ça ici en Occident. Mettez-vous. Moi, je reviens de Russie. J'aime autant vous dire que là, la popularité de Poutine, elle est à son climax. Hein. Absolument hallucinant, hein. 75-80%, il n'y a aucun problème. Il va revenir au pouvoir à coup sûr, hein. Il n'y a aucun problème. Et qu'on ne se rend pas très bien compte de la rancœur des Russes contre nous. Les Russes savent tout ça. Mon chauffeur de taxi a dit à peu près la même chose que je suis en train de vous expliquer. Je dis, mais c'est un chauffeur de taxi, là-bas, c'est souvent parfois un intellectuel qui fait du taxi. D'accord. Mais il a dit exactement ce que je suis en train de vous dire, par parenthèse. Il savait tout ça. Pas aussi fin, d'accord, mais il savait très bien l'affaire de l'Ukraine. Et voilà que nous allons apporter des millions de dollars pour soutenir la révolution orange. Et Yushchenko arrive au pouvoir. Il n'y a pas plus sot que cet homme-là. Le lendemain matin, à la radio et à la télévision, il annonce, fier comme Artaban, « On a gagné. On se libère des Russes. Jusque-là, ça va. On veut entrer dans l'OTAN et dans l'Europe. » Vous vous rendez compte, le Kremlin, là, explose. Que fait directement Poutine ? Ah bon ? À ce moment-là, vous les Ukrainiens, qui achetez du gaz à 50 dollars les 1000 mètres cubes, vous allez payer 230, puisque vous devenez des étrangers. Impossible de payer 230 dollars pour l'Ukraine. L'Ukraine est instantanément à genoux. Et la bagarre entre Poutine et l'Ukraine devient tellement forte que parfois il y a des arrêts de transfert de gaz. L'Europe, évidemment, se dit, mais quoi, et le gaz russe, il arrive ou il n'arrive pas ? Ça gêne très fort Poutine, qui devient fou de rage, évidemment. le chantage des Ukrainiens. Évidemment, à la longue, ce qui se passe, c'est que tout simplement, un pro-russe reprend le pouvoir, c'est terminé, ça va mieux. Mais l'Ukraine, ça, c'est plus le moyen de passage, je dirais, qui a l'agrément de Moscou. Ça suffit avec ces bougres-là. La Biélorussie aussi, vous avez là un dictateur, il commence aussi à flirter avec l'Occident, qui commence aussi à jouer avec son gaz. Donc on ne peut plus passer par l'Ukraine et la Biélorussie. Et par contre, les Américains sont en train de monter Nabucco. C'est la fin de la Russie. Si on ne peut plus vendre du gaz à l'Ouest, terminer nos 5 à 6% de taux de croissance, terminer les réformes en Russie, c'est fini, on l'étrangle complètement. Il faut donc trouver un moyen. Et ça, il faut dire que Poutine, il n'est pas tout à fait sot. Je vais y arriver tout doucement. Regardez tout le gaz venant d'Ukraine. Regardez-moi toute l'Europe qui dépend du gaz russe. Ça vaut beaucoup mieux que 300 divisions. On dépend du gaz russe. Si on ferme les vannes, c'est la catastrophe. Regardez ici. Vous avez encore en mieux, et regardez l'apport du gaz turkmène qui vient en renfort du gaz russe. Si les Turkmènes vendent essentiellement aux Américains et aux Occidentaux, il n'y a plus ça. Vous avez enlevé un apport de sang, S-A-N-G, un apport de sang aux finances russes. Vous comprenez bien la situation du Kremlin. Bon, alors, que va-t-on faire? Eh bien, on va faire quelque chose de tout à fait extraordinaire. Une minute, je vais voir si le suivant n'est pas légèrement plus clair. Il est plus clair. C'est compliqué, mais c'est vital. Je vais aller très lent. Ça, c'est tout le jeu actuel qui est assez phénoménal et qui est le combat entre Obama et Poutine. La Russie sait très très bien que Sarkozy est contre l'entrée des Turcs. Voilà le Nabucco qui sera construit, le voilà. Quand il sera construit, en 2014, si tout va bien. Et vous voyez ici Bakou qui rejoint le Nabucco et les Turkmènes qui vont ravitailler, donc tout ça marche très bien. Mais Poutine ne veut pas de cela. Il sait que Sarkozy est contre. Il sait que Merkel est contre l'entrée des Turcs. Donc, ces deux-là ne veulent pas Nabucco. Mais d'autre part, on ne peut plus passer par l'Ukraine et la Biélorussie. Ça, c'est plus tout capable de le faire parce que c'est très dangereux pour les Russes. Alors, Poutine lance la construction du Nord Stream, c'est-à-dire tout simplement un conduit sous-marin qui ravitaille l'Allemagne et de là l'Europe. Et il va trouver Merkel. Madame Merkel, est-ce que vous êtes d'accord pour que votre firme finance à 49% la construction de ceci? Oui, dit Merkel. Et la construction a commencé. Et qui dirige ça? C'est l'ancien chancelier Schröder, qui est le directeur général de la Baltique. C'est pas mauvais, ça, comme calcul. Ensuite, il va trouver Berlusconi et Sarkozy. Vous êtes pour l'entrée des Turcs, hein, ça? Berlusconi n'est pas pour l'entrée des Turcs. Ça vous devinez pourquoi. Et deuxièmement, aussi Sarkozy. Bon, et moralité, vous êtes d'accord pour financer, eh bien, Blue Stream, qui est en réalité South Stream. Non, c'est South Stream. C'est-à-dire, voilà, un direct entre la Russie et la Bulgarie. On saute au-dessus de la Turquie. Et la Bulgarie rayonne à travers toute l'Europe et Nabucco est complètement asséché. C'est terminé. Et alors notre ami Poutine va ajouter encore une plaisanterie, c'est qu'il va acheter aux Turkmènes qui vendent à n'importe qui, tenez-vous bien, à peu près 2 milliards de dollars en gaz. 2 milliards de dollars d'achat de gaz aux Turkmènes. Pourquoi? Pour assécher le Turkménistan qui ne sera plus envoyé de gaz à Nabucco. Est-ce que vous suivez? C'est prodigieux. Qui vous explique ça? Essayez de trouver ça. Je vous assure que, je ne suis pas du tout en train de mettre en évidence, mais je vous assure que c'est tellement complexe et tellement mélangé que la vision globale de tout ça
vous assure que c'est rare qu'on vous l'explique en globalité. Je dis ça vraiment franchement, parce que je sais très très bien qu'on me demande tout le temps de cette conférence, n'importe où. Le groupe Suez, à Paris, m'a convié pour faire cela à leurs 110 agents à l'étranger. 110 personnes à l'étranger pour suivre tout ce que je voudrais vous expliquer. Parce que Suez comprend que c'est fondamental de savoir comment ça tourne, évidemment. Bon, quand c'est pas ça, c'est l'autre jour, c'était Fortis. Avant que Fortis ne soit racheté, bien sûr, disons c'était Fortis avant l'épuisement de nos pauvres actionnaires. Bien, eh bien, je continue, c'est pas fini. Alors ceci, c'est le sommet en synthèse. J'ai parlé maintenant de tout ce qui se passait là-dedans. Regardez un peu où est l'Ukraine et regardez où est Moscou. Ça va ? Regardez un peu, si on prend l'Ukraine, la Crimée rentre dans l'OTAN et donc le port de Sébastopol est perdu pour les Russes. Vous y êtes toujours. Et sous Eltsine, on a poussé l'OTAN. On a poussé l'OTAN partout. On a monté l'OTAN jusqu'à l'Estonie. Où est l'Estonie ? Juste en dessous de Saint-Pétersbourg et de la base navale de Kronstadt. Regardez ici, Kaliningrad est encerclé par l'OTAN. C'est la deuxième base russe principale en Baltique. Et Sébastopol, une fois acquis, eh bien, il n'y a plus de port pour les Russes. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, notre ami Poutine ? Attention, et c'est vrai. L'Ukraine a reçu la Crimée de Khrouchtchev. Pour la gestion dans l'URSS. On n'en est pas à ça près. La Crimée est donc un don des Russes à l'Ukraine. Comme Staline a vidé l'Ukraine de ses Mongols un petit peu trop pro-nazis pendant la guerre et envoyé les Mongols là, il a peuplé ici la Crimée de Russes. Donc, dit tout simplement notre ami Poutine, puisque le Kosovo était déclaré indépendant unilatéralement par les Américains. Puisque les Américains ont attaqué l'Irak sans passer par l'ONU, moi je déclare indépendante l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie et la Crimée. C'est terminé. Vous vous rendez compte où on en était ? On a frôlé le bagarre général. Hein? Parce que notre Yushchenko avait interdit un bateau russe ayant quitté Sébastopol d'aller voir du côté des Abkhazes, du côté des Géorgiens. Interdit le retour. Poutine a dit, si le port se ferme, c'est la guerre. Et Madame Paline, la future présidente à l'époque, a déclaré, ben, s'il veut la guerre, ils l'auront. Vous vous rendez très bien compte que cette femme-là va talonner Obama aux prochaines élections républicaines. Vous vous rendez compte qu'elle est en tête. Hein? Si elle devient présidente, moi je pars aux Seychelles. C'est la folie. Hein? C'est la folie. Puis, et Madame Rey, sans arrêt, vous faites vite faire rentrer. Parce que l'artifice était très clair. On laisse, entre guillemets, le président géorgien attaquer, n'est-ce pas, l'Ossétie du Sud. Protégés par les Russes. Les soldats géorgiens sont au nombre de 8 000. Et les Russes ont 400 000 hommes dans le Caucase. Donc, on était certain de l'étincelle et que ce malheureux géorgien serait perdant. Et Mme Reiss, instantanément, dit il faut à toute vitesse que l'OTAN intervienne, l'OTAN intervienne. C'était un moyen de faire entrer à toute vitesse la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN. Et heureusement, écoutez, je ne suis pas du tout en train de faire la politique française. Heureusement que Sarkozy est allé voir Poutine, et Poutine aime beaucoup Sarkozy, vous devinez pourquoi, vous commencez à comprendre pourquoi. Mais tout simplement, a dit, écoute mon cher ami, l'Abkhazie et l'Ossétie, on a compris, tu vas les conserver, on se calme. Elle a raison absolument pour récupérer l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Et alors on a frôlé, hein. On n'a pas frôlé une guerre universelle, on a frôlé un échauffement phénoménal sur le plan du Caucase. Ce qui veut donc dire que regardez cette invraisemblable pression de l'OTAN aux frontières même de la sphère d'influence russe, avec la Turquie, avec le Turkménistan, avec la Roumanie, regardez-moi ça, on sent très bien ici une oppression. Et qu'est-ce qui va se passer? Devant cette attitude-ci de l'Occident et des Américains, Poutine n'a qu'un seul moyen de sauvetage, c'est s'allier aux Chinois. Et vous êtes parti pour la gloire. En 2006, à Shanghai, Poutine a signé avec les Chinois un accord portant sur l'économie, la politique et le militaire, je le signale. Nous avons gentiment reconstitué Mao Tse-tung et Staline. Ce ne sont plus des communistes, mais ce sont des nationalistes. J'aime autant vous dire que c'est tout aussi dangereux. Une Chine d'1,4 milliard d'habitants, plus une Russie technologiquement très avancée, vous devinez ce que ça va donner. Et comme il n'y a plus que 140 millions de Russes, il n'y a plus assez d'hommes pour travailler dans le gaz et dans le pétrole russe. Ce qui veut dire qu'on fait appel à la main-d'œuvre chinoise. Et les Chinois entrent en Sibérie, épousent des Russes. On a complètement réussi à souder la Chine à la Russie. Ça va bien, hein? Ça va vraiment bien. Bon, alors je crois que l'on peut quitter ce domaine qui est très vaste et qui au fond est Obama devant les problèmes. Il y a encore une chose que je dois dire. On vient de signer le traité START 2. Mais qu'on est content. Les deux parties ont accepté de diminuer de 2/3 leurs fusées. Ça, c'est vraiment un geste de paix, ça. Attention. C'est qualitatif et pas quantitatif. Ce qu'on détruit, ce sont des fusées périmées. Quasiment. Complètement dépassées. Par contre, je vous signale que les Russes sont en train d'équiper à l'heure actuelle et de travailler sur un engin balistique mondial capable de faire le tour du monde et de jaillir sur n'importe quel endroit. Par contre, les Américains sont en train de mettre au point un sous-marin complètement silencieux, porteur d'engins. C'est vous dire que ça s'apaise vraiment très bien. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est pas fini. C'est que tout simplement, les Américains ont signé START 2. Ça a été voté. On est content, à part le fait que les Russes ne sont pas contents du tout, et ils le disent. C'est que les Américains ne veulent accepter dans ce traité que les armes offensives et pas les armes défensives. Or, imaginez-vous que M. Bush avait inventé rien de mieux que d'installer en Pologne des missiles antimissiles pour surveiller l'Iran, avec un formidable radar en Tchéquie pour surveiller l'Iran. Écoutez, les Russes se sont dit, ça va pas mieux dans votre tête. Mettre des antimissiles à la porte de la Russie avec un radar qui permet de voir tout ce qui se passe en Russie, ça va pas mieux. Obama a accepté le dessin des antimissiles en Roumanie. Et là, ils sont pas d'accord du tout, les Russes. Enfin, ces armes-là doivent être comptées parmi les armes qui sont dangereuses. En effet, vous avez supposé un revolver braqué sur moi. Moi, j'ai un revolver braqué sur vous. J'ai 11 000 têtes nucléaires, vous aussi. Jamais besoin de la tirer. Vous achetez un formidable bouclier antimissile, antibale. J'ai une chance sur 10 de vous toucher. Vous avez 10 chances sur 10 de me tuer. Il est évident que ce bouclier est une arme phénoménale. Et donc, évidemment, les Russes ne veulent absolument pas ces missiles-là. C'est clair. Ça ne donne pas beaucoup mieux. Je passe, alors maintenant, n'est-ce pas, à ce que j'appelle, voilà, regardez le plan donc, de Shanghai, c'est toute la Chine dans l'accord, toute la Russie dans l'accord, le Kazakhstan dans l'accord, le Tadjikistan dans l'accord, et savez-vous qui a été l'invité à la signature de cet accord? Et qui est convié chaque fois qu'il y a une réunion de cet accord, c'est le président iranien. Parce que, comme les Américains sont en Irak, les Américains sont en Afghanistan, les Américains sont alliés des Saoudiens, les Américains adorent les Turcs, qu'est-ce qui reste pour les Russes?
l'Iran. C'est-à-dire l'axe chiite. Il reste pour les Russes, l'Iran, la Syrie, gouvernement chiite, le Hezbollah, évidemment, comme par hasard, pas chiite. Et voilà, vous avez donc un axe chiite pro-russe qui gêne toute la politique américaine dans le Moyen-Orient. Encore un problème pour Obama. Pas facile à régler. Le problème d'Israël devient complètement fou pour Washington. Netanyahou n'obéit plus. Il colonise à fond. Et évidemment, les Américains sont considérés avec raison, comprenons-nous, comme complètement anti-arabes. C'est pas difficile, vous savez ça. Il y a 2 jours, Poutine a reconnu l'État palestinien. Vous voyez la différence? C'est extraordinaire. Ben, il est vraiment là, jusque-là, le malheureux Obama, dans les contradictions de cette politique Bush et ses problèmes actuels. Alors, je vous signale par parenthèse que le gouvernement français opère dans toutes les failles. Dans toutes les failles. C'est ainsi que le gouvernement français vient de vendre 180 Airbus à l'Inde. 180 Airbus d'un coup sec. Le gouvernement français vient de vendre 2 bateaux Mistral porte-hélicoptères à Poutine. Ça va? Les Américains sont très contents. Alors d'autre part, vous avez aussi les Américains qui sont très contents du fait que le Brésil a reçu 3 sous-marins de la France. La France a vendu 15 centrales nucléaires à l'Inde. Vous suivez le climat? Vous suivez le climat entre une certaine Europe et les États-Unis? Hein? C'est-à-dire que véritablement, ce n'est pas simple. Alors, je continue. Là. Ah oui, ça, ce sont évidemment les apports de gaz et de pétrole pour les Japonais et pour les Chinois. Il y a une conduite de gaz qui va de la Russie, Sibérie jusqu'à la Chine de 14 000 km carrés. 40 000 km de long, en passant par toutes les sources. C'est fou. Ça, oui, excusez-moi, parce que ça c'est vraiment capacité. Hein. C'est pour les grandes conférences que je fais. Ah, tout est dans ce livre, parenthèse. Hein. Je vous le signale, hein. Ça c'est le livre que j'ai publié en 2000, on est à la 6e édition. C'est donc toutes les religions, plus la politique. C'est arrivé là parce que c'était pour un Rotary que j'ai fait faire cette attaque figurée. Maintenant, on a fait le tour, sauf l'Amérique du Sud. Là, c'est pas mal non plus. Monsieur Obama est devant l'Amérique du Sud. Et là, il y a un certain Chavez. Ce Chavez possède 3 500 000 barils par jour. C'est-à-dire que c'est énorme. C'est énorme. L'Irak peut produire 4 millions, au mieux de sa forme. 3 millions et demi. Il a du gaz à plus savoir comment faire. Et il est parfaitement à l'extrême gauche. Il est en train de payer l'Équateur. L'Équateur a rallié le Venezuela. Il a rallié à sa bannière le Nicaragua. Je vous signale que le Nicaragua est en train de construire actuellement un port pour les Iraniens. Les Iraniens. Non seulement ça, vous avez notre ami le Bolivien, qui a aussi son derrière assis sur du gaz, et qui est en principe cette petite révolution andine, pas très 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 pro-américaine du Nord. Mais ce n'est pas fini. Vous savez, on a découvert en Bolivie quelque chose de prodigieux. Prodigieux, vous savez que là se trouve l'un des plus grands salars, c'est-à-dire une de ces mers qui a été portée vers le haut dans l'Himalaya. Mer Salée, bien. La plus grande réserve de lithium au monde. 55% du lithium. C'est-à-dire que c'est de la folie. La Bolivie devient le pays le plus riche du monde. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Et vous avez évidemment le fait que ça recommence. Pas Cuba a disparu. Oui. Que vendait Fidel Castro? De la canne à sucre. Rien que de la canne à sucre. Était à fond par la Russie qui achetait la canne à sucre. Il n'avait pas d'argent.
Mais Chavez, il est capable d'acheter toute la flottille d'avions russes demain matin. Il peut se munir de croiseurs, de sous-marins, il est richissime. Il peut payer toute la révolution partout. Vous rendez compte du problème que fait germer un Chavez? C'est pas difficile. Enfin, Sarkozy a vendu 3 sous-marins au Brésil, des avions Rafale. Pourquoi? Pour que Lula, à l'époque, puisse résister éventuellement à une attaque de Chavez. C'est pas difficile. Voilà donc au fond ce que je dis sur le plan Obama en géopolitique. Remarquez que le titre impliqué, je ne parle pas des problèmes intérieurs, où là, c'est vraiment tout aussi épouvantable. Ça ne parle pas de faire un dessin, tout le monde sait très bien ce qui se passe avec la majorité républicaine qui veut ceci, qui veut annuler la loi sur la santé. Annuler, carrément, c'est le titre. Bon, je ne vois plus ce qui pourrait rester. Oui, l'Afrique. L'Afrique, alors attention, j'ai quand même parlé de l'Afrique, mais pas de l'Afrique noire, qui évidemment est aussi archi connue. Et bon Dieu, bah, l'Afrique noire, ça peut être une conférence de 3 heures, 5 heures, 6 heures, comment s'analyser tous les pays les uns après les autres. Hein. Je dirais simplement que l'Afrique noire connaît, je l'ai expliqué, à Ouagadougou, le mouvement européen, comment dirais-je, la Commission européenne m'a demandé d'aller à Ouagadougou devant tous les chefs africains. Il y avait une grosse réunion entre l'Union européenne et l'Union africaine pour faire un exposé de 3 quarts d'heure sur un rapport que j'avais présenté à la Commission sur la bonne gouvernance des États africains. Comment faire pour que ça aille mieux? J'ai donc pris une dizaine de journalistes pour les plans, et j'ai présidé la chose, j'ai fait un texte pour Louis Michel, Louis Michel m'a envoyé un mot de goût avec lui. Qu'est-ce que je leur ai dit? C'est simple, bonjour. Ne commencez pas à me répéter que c'est à cause des colonisations que vous avez le climat actuel. Ça fait 50 ans qu'on est parti. Ça fait 50 ans qu'on est parti d'un tas d'autres pays qui sont maintenant florissants. Regardez tous les pays qui se réveillent un peu partout en émergeant, sauf l'Afrique. Il y a deux problèmes. Vous êtes fondé sur l'ethnie. Une démocratie est impossible chez vous. Il est impossible de renverser Mugabe. 80% de l'ethnie du Zimbabwe. Impossible de renverser les Hutus, 80% de Rwanda, sauf par la force, l'armée et tout de suite. Non, c'est pas faire une démocratie au Rwanda, les Tutsis seront automatiquement 20%. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. L'ethnie du Sud soutient son président, l'ethnie du Nord soutient le sien. Regardez ce qui se passe à Kinshasa. L'Est du Congo vote automatiquement pour le président actuel. Et évidemment, Kinshasa pour un autre. Impossible. Les ethnies bloquent. Et j'ai dit, ça a fait rire la salle. J'en sais quelque chose. La Belgique est divisée entre deux ethnies. Je ne plaisante qu'à peine. Monsieur De Wever a déclaré il y a un mois ou deux, on est la majorité. Eh bien, on va faire de la Belgique ce qu'on veut. On est la majorité. On découvre la frappe. Mais attention, monsieur De Gucht est arrivé comme commissaire européen. Et qu'est-ce qu'il a dit il y a ça deux jours? Il a dit, je trouve qu'évidemment c'est une négociation intéressante, modérée, d'accord, d'accord, mais on doit quand même dire à nos amis francophones, à qui on souhaiterait toujours s'entendre, bien sûr, qu'enfin il y a une majorité, n'est-ce pas, en Belgique. Qu'on ne peut pas toujours dire non à la majorité. C'est la même phrase. C'est la même phrase. Ça veut dire simplement qu'heureusement que nous avons toutes les sonnettes d'alarme, et heureusement aussi, et ça, attention, M. De Wever le sait, c'est que du moins, on lui a bien répété. Les constitutionnalistes lui ont bien répété. Et son parti le sait, il ne peut pas partir par une scission violente. Il ne peut pas créer une insurrection. Il ne peut pas séparer la Belgique sans un Parlement qui est d'accord et tout le respect de la démocratie. Parce que l'Europe va le refuser. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si on fait ça avec les Catalans, demain prennent les armes, il n'y a plus d'Espagne. Demain, les Corses prennent les armes. On ne peut pas partir par une insurrection, serait-elle même pacifique. On ne peut pas rompre au sein d'un État. Donc, il faudra à ce moment-là, quand on arrive, la scission doit être à ce moment-là discutée de façon tout à fait démocratique. Oui, attention. La Flandre s'en va. C'est la Flandre qui part. Donc, la Belgique, c'est Albert II, la Wallonie, plus simple. Comprenez-moi. De toute façon, au moins la Wallonie et Albert II. Bruxelles, on va voir ce que ça va donner. Il y a 85% de francophones de Bruxelles, à mon avis, on va marcher de l'autre. Bon. Ça veut dire que les 27 pays doivent accepter à l'unanimité le nouveau, dont les Wallons et Albert II. Oui, déjà les Wallons acceptaient soudain au sein de l'Europe la Flandre. Après le coup, je crois que Marguerite va d'accord. Et deuxièmement, oui, déjà, attention, je viens de vous le dire, l'Espagne a refusé la dépendance du Kosovo pour ne pas que ça fasse tache d'huile chez les Catalans. Imaginez-vous que la Flandre soit acceptée. Jamais les Espagnols vont accepter, jamais les Français vont accepter, les Corses et les Basques. Comprenez que c'est pas possible. Donc, évidemment, la scission devient impossible. D'où, évidemment, il faut obtenir le maximum. Mais la scission s'éloigne, 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 jusqu'à je ne suis pas de bien l'éclatement d'Europe, des mers, on fera tout ce qu'on voudra. Les Catalans veulent déjà se faire appeler nation. Eh bien, le tribunal suprême d'Espagne a refusé le terme nation. Ça veut dire simplement que nous trouvons, je résume maintenant tout le reste de ce que j'ai dit en une sorte de synthèse, la gestion d'Obama est une gestion intelligente, généreuse, manifestement qui tranche très très fort avec la gestion de 8 années de M. Bush. Ça c'est très clair, ce fut horrifiant, ce fut une erreur messianique, ce fut une croisade anti-musulmane bébête. Au fond, on a flotté dans la terreur. Obama, évidemment, est infiniment plus porteur d'espérance. Mais attention, c'est un très américain. Et Barroso s'en inquiète, l'Europe s'en inquiète. Cet homme n'est pas un allié, mais c'est un allié de l'Europe nécessairement. L'Europe, c'est un des pions qui bouge sur le damier général. Pour lui, la Chine, c'est plus important. Vous savez probablement que la Chine a investi dans tous les fonds de pension américains. 750 milliards de dollars sont à la Chine dans les fonds de pension américains. Si les Chinois retirent leur argent, il n'y a plus de pension. Vous devinez, c'est quand même important, ça. Vous avez aussi le yuan qui joue comme on veut dans tous les sens avec le yen, etc. Et les Chinois continuent à brader évidemment leur monnaie en la tenant trop basse pour ruiner évidemment l'Europe et les Américains. Tout ça c'est colossal. Et cet homme, donc attention, n'est pas nécessairement un allié. C'est un homme honnête, ça je le suis persuadé, mais c'est aussi un Américain avant tout qui veut l'hégémonie américaine avant tout. Il suffit de voir encore ce qui continue à se jouer contre Airbus, tous les tours pendables que les Américains nous jouent sur toute une série de plans de querelles économiques, ils sont toujours disposés à rester hégémoniques. Et ce n'est pas du tout le peuple américain que je vise. Les Américains sont un peuple sensationnel. Ils sont venus deux fois nous aider pendant la guerre. C'est remarquable. Heureusement que ce sont eux nos alliés et pas d'autres farfelus. Hein? Ça c'est clair et net. À tout prendre, je préfère à bien d'autres. Mais attention, ce sont des concurrents avant d'être des partenaires. Ils veulent faire s'effondrer le fédéralisme européen pour devenir une simple zone de libre-échange pour faire tout simplement l'envahissement de leurs produits chez nous. Attention, ce sont des concurrents. Vous voyez très bien la différence aussi entre la mentalité américaine par rapport à leurs banques. Au fond, le contrôle n'est pas très très nécessaire. Et chez nous, avec Merkel et Sarkozy, on veut arriver malheureusement à un contrôle fédéral des banques. C'est un tout autre système. Et attention, l'argent pénètre à flot. Les 10 pays qui viennent d'entrer, les 10 nouveaux, ont une frousse. C'est la frousse des Russes. Je les comprends, après 45 ans. Et donc, évidemment, ils sont vraiment les amis atlantistes avec les Anglais. Avec aussi, je dirais dans un certain sens, le Portugal et l'Irlande. Ce qui veut donc dire qu'il y a une majorité quasiment de pays européens qui sont atlantistes avant d'être européens. Facile de faire l'Europe. Et ce qui est dramatique, je vous le cache pas, je suis enseignant. Tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous dire, eh bien, je les donne dans mes cours. Mais je vous signale tout de suite que la carence des étudiants, la carence du savoir de ces jeunes des universités que je fréquente, des instituts que je fréquente, qu'est-ce qu'on dit sur leur... On vous dit comment fonctionne la commission, combien de voix il faut au Parlement. C'est de la technique. Le souffle est parti. Il n'y a plus de souffle. Les jeunes n'ont plus aucun sens de l'humanisme, plus aucun sens du passé. Ils sont dans un système de prêt à l'emploi. Comment réussit-on sa vie maintenant? En connaissant 3 à 4 langues, l'informatique à fond et une connaissance pointue. Terminez la géographie, terminez l'histoire. Peut-être expliquer là, à vous, qui êtes âgés, relativement, ça va. Mais vous croyez que sans carte, un de mes jeunes de 20 ans, c'est où le Cambodge, la Thaïlande, ils ne savent rien du tout. Quand je dis un Perse, qu'est-ce que c'est ça, un Perse? Un ancien Iranien, il savait où est la Perse. J'ai épuisé en 4e année d'université un étudiant qui ne savait pas me donner l'Inde sur une carte. Ça va. Il fait l'interprétation de traduction. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Il y a un abandon total. Et le sait, si notre ami Laurent le sait, ce qu'il cherche à faire lui, c'est donner un peu d'humanisme dans le système bancaire pour réfléchir un peu d'où on vient, où on va. C'est la première fois depuis Charlemagne que l'Europe occidentale n'a plus connu de guerre depuis 50 ans. La première fois depuis Charlemagne. Vos enfants ne font plus de service militaire et on ronronne. Attendez un instant, laissez tourner le monde comme ça, on va vite refaire le service militaire. Et vite, hein. Et vite, hein. On va droit au fossé. Ça, c'est certain. Et voilà, c'est bon, ce que je vais vous dire, c'est que je crois que c'est une synthèse, mais non pas très, très, très optimiste. Mais je pars du principe qu'il faut armer les consciences devant les désastres possibles à venir pour qu'il y ait une réaction à temps. On ne peut pas autant faire de l'optimisme, n'est-ce pas? Les optimistes sont ceux, ce sont ceux qui envisagent dans leurs actions une capacité d'intervention pour améliorer le monde. Ce ne sont pas des gens qui mettent des charentaises en attendant que leur pension survienne en sortant leur chien à 11h tous les soirs au réveil. C'est pas ça les optimistes. Les optimistes, ce sont ceux qui se battent pour que ça réussisse. Les optimistes, ce sont ceux qui prennent parti pour que ça s'améliore. Et avec une amitié entre eux, et avec une solidarité, c'est ça l'optimisme. Moi, je suis, vous savez, attention, un pessimiste constructif. J'explique ça, eh bien, j'aime autant vous dire, je suis quand même assez fier de ça. Et comme je vous le dis, je suis assez fier de ça. J'ai convaincu 2 ministres belges de refuser l'accession des Turcs à l'Europe. Il faut le faire, hein. Ah oui, quand même, il y a une pression, hein. Une pression, c'est certain, ça. Vous lisez mon livre là en question, c'est pas possible. Vous lisez ça, c'est expliqué de A jusqu'à Z, et ce n'est pas du tout de l'anti-islamisme, hein. Ça n'a rien à voir. J'ai fait des conférences devant les imams de Belgique et ils m'acceptent parfaitement. Vous savez que ce bouquin-là va être traduit par l'université Mohammedia de Casablanca. Les musulmans veulent le traduire. Donc, je ne suis pas du tout anti-musulman. Je dis simplement, attention, je suis des extrémistes musulmans. Je terminerai par une seule phrase. Le monde ne pourrait être sauvé qu'à une seule solution. C'est que dans chaque clan, il y a des gens généreux et des gens excessifs. Que dans chaque clan, les généreux écartent les excessifs. Je ne dis pas les éliminer, pas les tuer. Écartent les excessifs. Et que les gens généreux se donnent la main. Moi, je connais d'excellents chrétiens prodigieux, mes frères. D'excellents musulmans prodigieux, mes frères. D'excellents protestants prodigieux, mes frères. Eh bien, qu'il liquide dans chaque camp ceux qui ne sont pas généreux. Et on se donnera la main. C'est la seule solution. Et je suis un laïc. Oui, je suis un laïc parce que pour étudier les religions, c'est la seule solution. Je ne dois pas avoir à l'avance une idée préconçue sur un dieu quelconque. Mais ça me permet, comme a dit un de mes préfaciers qui est Gabriel Réglé, ça a permis à l'auteur d'être juif avec les juifs, chrétien avec les chrétiens, musulman avec les musulmans. Les musulmans veulent traduire ça. Pourquoi? Ils m'ont dit, mais ce livre a complètement restauré l'honneur de l'islam. Vous avez parlé de Cordoue, de Fès, des phares de Saladin. C'est fou ça, il n'y a pas plus de ça. En réalité, vous avez simplement dit, vous avez été un phare colossal de culture pour l'islam. Il faut se désenfermer et revenir à ce que vous étiez avant, et parce que vous êtes maintenant. Les imams ont entendu cette phrase. J'ai parlé de Saladin. Comme que Saladin. Vous voyez encore cette petite histoire-là, c'est minuscule, mais ça vaut la peine. Hein. Ça vaut la peine. Hein. Parce que Godefroy de Bouillon, qui siège à la Grand Place, royale, notre Godefroy de Bouillon, s'est emparé de Jérusalem, il a tué tous les musulmans, tous les juifs, et tous ceux qui étaient coptes et qui étaient au fond, disons, pas rattachés à Rome. Un bain de sang avec les barons croisés. Quand Saladin a repris Jérusalem, 100 ans plus tard, il a évidemment combattu ceux qui étaient ses créneaux. Ça, bien sûr. Puis il a dit aux juifs qui étaient là, vous pouvez parfaitement rester, mais il y en a un autre. Vous êtes tout à fait libre de faire votre commerce. Il a dit aux chrétiens, vous pouvez rester, mais il y en a un impôt. Si vous ne voulez pas rester, c'est parfaitement votre droit. J'ai réquisitionné des bateaux italiens qui vous attendent à la côte, qui vous rapatrieront tous en Europe. Et ma garde personnelle vous assure votre, la garde jusque à l'embarquement. Qui était le sauvage, dites-vous ? En 1492, qui étaient les sauvages, dites-vous ? Quand on a vu les pruneaux qui a déclaré que la terre tournait autour du soleil, qui étaient les sauvages, dites ? À Saint-Barthélemy, qui étaient les sauvages, dites ? On oublie ça ? En même temps, vous avez les savants prodigieux judéo-arabes, les maïmonites, et donc ils travaillaient tous ensemble, les avicennes, etc. Mais c'était prodigieux, Cordoue était prodigieuse. Pendant ce temps-là, nous, on faisait des bûchers. C'est quand même, il faut quand même se dire, et ça, c'est le drame. C'est que les gens vivent une vie éphémère. Et nous avons tout juste le temps de nous forger une conviction qu'on appelle une certitude. Et résultat, j'ai vécu moi avec mes étudiants la génération de la guerre de Corée. Enfin, c'était pas encore, attention, mes étudiants n'exagéreront pas, mais j'ai vécu très jeune la guerre de Corée. Puis il y a eu l'Indochine, il y a eu l'argent, l'Algérie, puis il y a eu le Vietnam. Et on était donc là, tous, ben, tous ceux qui n'étudiaient pas ben, l'histoire en général, comme moi je l'ai fait, j'ai échappé à cette emprise. Mais au fond, on réfléchit quand ? On se donne conviction quand ? Généralement, ben, entre 14 et 20, 22, 23, 24 ans. Après ça, c'est la famille, c'est le boulot, c'est le problème, c'est les impôts, et on est bien dans sa petite conviction. Ça, on est chrétien, on est socialiste, on est CDH. Alors, comme un projet, on doit ça. Sa promotion à un socialiste, c'est évident, on ne va pas quitter le parti socialiste. Hein. Bon, et on est chrétien, c'est un peu difficile de changer parce que t'as, il faut, ça demande quand même des réflexions. Ça, donc on reste là, voilà. Et on est figé dans ces certitudes. Et alors à ce moment-là, attention maintenant avec ce qui se passe partout. Mais évidemment qu'on se met à détester l'islam. Manquerait plus qu'on ne déteste pas avec tout ce qui se passe, c'est fou. Mais attention, quand vous regardez le passé, vous êtes vraiment en étudiant du passé. Vous attrapez vraiment une notion infiniment plus générale de ce qu'est l'humanité. Vous n'êtes plus encerclé dans votre petit vol de papillon qui dure 80 ans maximum. Vous avez le choix de butiner toutes les fleurs du passé. Vous êtes un papillon solitaire avec ses certitudes. Je déteste pour le mot certitude. Je la déteste seulement. Je partant tout de suite pour avoir au contraire un bandeau sur mes cheveux avec je doute. Ça c'est prodigieux parce que tous les jours, vous arrivez à connaître mieux l'autre. Je suis contre le mot tolérance. Ça veut dire quoi la tolérance ? Cause toujours, je t'écoute. Je suis pour le respect de l'autre. Ah, ça demande un dialogue avec l'autre. Réciproque si possible. Si je respecte quelqu'un, je suis infiniment plus impliqué dans sa logique d'esprit que si je laisse parler. Et ça demande un travail assez extraordinaire, c'est vrai, ça demande des convictions d'ouverture et aussi, je dirais, un cerveau perpétuellement en éveil sur ce qui survient dans le monde et une connaissance du passé. Je crois que j'ai fini. Merci beaucoup. Merci.
De questions techniques. J'ai pas bien compris pourquoi est-ce que la France est à ce point contre l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Et ma deuxième question, c'est pourquoi quelles sont aussi les motivations françaises dans pense. Ce jeu avec les États-Unis, vous avez expliqué à quel point la France avait sa propre vision, mais je n'ai pas très bien compris ses motivations.
Excellente question. Première réponse. Il est clair que monte, et cela va s'achever probablement dans les 2 ans, l'islamisation de la Turquie va être acquise. Bien. Attention, la Turquie de Mustafa Kemal, c'était la copie typique de 1905 française. Donc dans 2 ans, la Turquie n'est plus 1905 et va donc animer les groupes islamistes en France.
Okay.
Vous y êtes. C'est donc un pays qui devient très dangereux. 80 millions en 2025. Le plus grand pays d'Europe qui a droit au droit de veto. En matière éthique, vous savez qu'il y a un imbécile de l'ULB. Il y a tant d'autres, un idiot à l'ULB comme ailleurs. Hein? Je suis de l'ULB, donc je vous dis calmement, un imbécile de l'ULB, très laïque, m'a dit « On devrait faire rentrer les Turcs, ça va gêner le Vatican. » Ça, c'est ce que j'appelle la laïcité intelligente. Vous ne trouvez pas ça faux? Le problème, c'est que j'ai retrouvé, moi, 3 mois après, j'ai dit « Écoute, vraiment, ta phrase m'avait fort déplu, pour commencer, parce que c'est stupide. Mais deuxièmement, aussi, parce que tu te trompais. » Je n'ai même pas dit que tu te trompais. Benoît XVI est allé à Ankara. Et Erdogan ne voulait pas le recevoir. Il était parti quelque part. Le pape s'amène, on a compris. Hein. Bon, il vient rouspéter contre le sort fait aux chrétiens, n'est-ce pas, en Turquie. Bien. Pas du tout. Le pape a dit, ça vaut quand même la peine de vous attendre, de m'attendre pendant une demi-heure sur le tarmac. Erdogan s'est dit, bon, on va l'attendre. Évidemment, dans un salon VIP. C'est absolument incroyable ce que je vous dis. Benoît XVI a été reçu dans un salon VIP du tarmac d'Istanbul. Hein? Faut quand même le faire, Erdogan. Ils ont parlé 1 heure. Ça valait la peine. Benoît XVI a dit ceci. Nous sommes tous traqués par le temporel laïque excessif. Regardez ce qui se passe. L'euthanasie, l'avortement, mariage homosexuel, et ceci, et ceci, et ceci, et ceci. La contraception, l'avortement, aussi. Et nous savons que cette grande religion, l'islam, partage nos vues. Voulez-vous aussi introduire plus de spiritualité dans la gestion des États? Moi aussi, si on s'alliait. Et Benoît XVI a déclaré aussi pour l'entrée des Turcs en Europe. Clac. Barroso, la commission. Maintenant, fait l'objet d'une pression colossale des milieux religieux pour reprendre au niveau de l'Europe qu'ils ont perdu sur le plan national. Je suis par contre dit pour, je ne prends pas parti, je dis ce qui se passe. Ce qui veut donc dire que vous voyez tout de suite où l'on va. Attention, Jean-Paul II et Benoît XVI ont déclaré clairement qu'il était parfaitement, ils étaient vraiment d'accord avec le caractère ostensible des sites religieux. Pourquoi pas? On est pour le voile, pour pas problème, mais le CDH. Première femme parlementaire voilée sur les 27 pays, c'est un pari chrétien. C'est étonnant. Voilà, vous voyez bien ce que je dis. La deuxième raison. La France est battue en 18 jours par les Allemands. Les Allemands arrivent à Dunkerque à toute vitesse, mais c'est fini. C'est la catastrophe totale. Les Américains, qui sont intervenus en 1917, se disent, mais c'est pas possible. On va devoir retirer 20 ans après pour sauver les démocraties occidentales. 20 ans après, mais c'est rien ça, 20 ans. Il y a des gens qui ont fait les deux guerres, qui ont fait la guerre à 20 ans, il y a 40 ans, ou à... c'est absolument hallucinant, des gens qui ont fait 2 fois la guerre. Bon. Et donc Roosevelt a horreur de De Gaulle. Ce général à 2 étoiles de 2 mètres de haut, qui se prend pour la France, qui est en train de faire des rodomontades, il a tout juste un bataillon français à l'autre. Ça suffit. Les Français n'étaient pas prêts du tout. La France, je peux en entendre parler dans certains. Et surtout pas ces gens orgueilleux qui sont en train de tenir des discours étonnamment arrogants. De Gaulle était très très démocrate. Il faut avouer quand même qu'il avait un genre légèrement oppressif sur le plan de la France. La France, c'est moi. Churchill cherchait un peu à améliorer les choses, mais n'empêche que bon, Roosevelt était con. Il a essayé de le remplacer par Giraud, par Darlan, par Weygand. Rien à faire, De Gaulle est à travers. De Gaulle s'est rendu compte, en plus, aussi il n'avait rien du tout. Il a fait la tête, il est au courant du débarquement à Alger. Il a fait, il est au courant du bombardement de Merseille-Kébir par les Anglais coulant la flotte française. Pas au courant.
Il avait un micro, parlait à la résistance, contentez-vous de ça. Il est revenu complètement écœuré. En plus, les Américains avaient tellement peur des Français, qui avaient été pétainistes, donc fascistes, et aussi il y avait 25% de communistes en France. Ce pays est communiste ou fasciste. Ils voulaient installer à Paris, en 1945, un gouvernement provisoire américain, le temps que ça aille mieux. Ça va ? Bon. De Gaulle arrive. Et on assiste à le blocus de Berlin par les Russes. Nos chers Russes ont bloqué Berlin. Bon, il faut sortir tout notre armement à toute vitesse. On s'aperçoit que les Russes ont encore 300 divisions soviétiques pieds sur guet et nous, on a tout démobilisé. La panique. Il faut réarmer les Allemands. Réarmer les Allemands, d'accord. Mais et comment ? Par refaire une armée allemande nationaliste quand même. Il faut faire une armée allemande mélangée aux autres armées. La communauté européenne de la défense voulue par Spahn. Échouant avec Mendes France, les Français ne veulent pas. L'OTAN se charge de l'opération. L'armée allemande est intégrée dans l'OTAN. Bien d'accord ? Oui, mais les Américains dirigent l'OTAN. Medvedev n'a pas cessé de le dire, Poutine aussi. Il n'est pas possible que la sécurité européenne soit confiée, alors qu'elle est aussi russe que française, aussi russe qu'espagnole. Nous sommes russes européens, c'est clair. La Russie fait partie de l'Europe, si on veut, jusqu'à l'Oural. Bon, pas possible que la sécurité de l'Europe occidentale soit soumise à un pays extérieur hégémonique. L'OTAN est dirigée par les Américains. Nous voulons, nous, une alliance avec l'Europe pour créer un système de sécurité avec les Russes et sans une domination d'une grande nation comme les Américains. Ça, c'est la thèse de Medvedev. Bon, d'accord. Bon. De Gaulle se dit, moi, je vais être complètement bloqué par les Anglo-Saxons. S'ils ont envie de faire la guerre, ils ont envie de faire ceci, faire cela. Regardez, on fait la guerre à l'Irak, l'OTAN derrière. Hein? Bon. On va attaquer les Serbes, l'OTAN derrière. Il faut que la France reste disponible. En plus, De Gaulle avait parfaitement compris que l'anglo-saxon allait dominer. La langue anglaise allait dominer le monde. Le français devenait complètement minoritaire. Il a donc créé l'Europe des six pour que le français redevienne majoritaire à l'intérieur de l'Europe. On parlait français pendant 12 ans dans toutes les instances européennes. Le français était la langue circulaire. Pourtant, De Gaulle prend les Anglais tout à fait à contre-pied des Américains aussi. Il chasse l'OTAN de Paris. D'accord. Il y a une tradition française. Regardez Mitterrand, qui embêtait les Américains. Saddam Hussein avait des armes suffisantes pour attaquer Israël. Et Israël demande aux Américains d'intervenir. C'est la première guerre du Golfe. Et Mitterrand n'arrêtait pas de dire, mais écoutez quand même, Saddam Hussein, quittez le Koweït. La France vous garantit qu'elle négociera l'obtention par le Koweït d'un délai de remboursement des sommes que vous lui devez avec la guerre contre l'Iran. On vous garantit qu'on va essayer avec le Koweït d'obtenir un débouché pour votre gaz ailleurs que proche de l'Iran. La France se charge de défendre vos intérêts. Mais reculez. Or, l'ONU avait dit, si Saddam Hussein rentre dans son pays et quitte le Koweït, il n'y a pas d'attaque contre Saddam. Les Américains avaient déjà 500 000 soldats sur place avec les porte-avions. La France leur a cassé les pieds. Supposons un instant que Saddam Hussein cède à Mitterrand. On peut rapatrier 500 000 hommes. Vous savez que pour un homme, il faut 8 litres par jour d'eau. 500 000 fois 8 litres d'eau, rien que ça. Devinez le coût d'opération. On voulait massacrer Saddam Hussein pour que Israël échappe à l'armée irakienne, qui était la quatrième armée du monde qu'on avait armée contre l'Iran. Non seulement cela, pourquoi est-ce qu'on a laissé Saddam Hussein, qui était déjà encerclé, tout ce qu'on était encerclé. Saddam Hussein était mort. Pourquoi est-ce qu'on l'a sauvé en 1990 à la demande des Turcs, qui ont dit, on ne veut pas que les Kurdes soient libres. À la demande des Séoudiens, que pourtant Saddam Hussein voulait envahir, pour pas que les chiites envahissent l'Irak. Et donc l'Arabie Saoudite, vous vous rendez compte du traquenard. Ça veut dire qu'au fond, un Sarkozy se rend parfaitement compte que, au fond, les Américains, eux, n'auront pas les 80 millions de Turcs. C'est nous qui les aurons. Et alors, il y a aussi autre chose, c'est que vous n'avez pas pensé à ça peut-être. Les Turcs ont massacré à longueur de siècle les Arabes. Vous faites entrer les Turcs et il y a des imbéciles qui vous diront, comme ça, les musulmans seront contents. Vous allez au Maroc, ils sont furibins. Furibins, je vais souvent au Maroc dans des colloques. Et les Marocains nous disent, enfin, le Maroc, c'était l'Andalousie, c'était des siècles incroyables de culture. Les Ottomans n'ont pas arrêté de vous faire la guerre. Et vous allez choisir les Turcs. Mais demain matin, si les Turcs entrent dans l'Europe, Bolonbek est à feu et à sang. Hein. Les Marocains sautent sur les Turcs. Les Turcs, évidemment. Les Turcs européens, les Marocains, pas. Vous allez voir ce qui va se passer à Bruxelles. Évidemment. Et donc, que dit Sarkozy? Il faut faire un cercle méditerranéen dans lequel seront les Turcs et les Arabes en fraternité de partenariat égal. Pourquoi les Turcs seraient-ils choisis en priorité? Du coup, ils s'allient tous les Arabes musulmans de France. C'est pas bête. Merkel n'en veut pas. Il y a déjà 4 millions de Turcs. Vous savez, la dernière invention d'Erdogan, quand il a rencontré pour la dernière fois Madame Merkel, Merkel a dit, de toute façon, je ne veux pas l'entrée des Turcs. Elle dit ça carrément. Je veux un partenariat privilégié. Ça, oui. Mais pas la pénétration de Turcs sur une autre civilisation. Mais deuxièmement, pour l'Erdogan, lui demande calmement, il y a 4 millions de Turcs. Ils ont certaines difficultés, et tu dis, on voudrait pouvoir avoir des écoles à base maternelle turque en Allemagne. Ça veut donc dire qu'ici, on créerait des écoles avec langue maternelle marocaine, turque, n'importe quoi. Vous faites la communautarisation immédiate de l'enseignement et des communautés. Elle a dit non, évidemment. Vous vous rendez compte ce qui menace là derrière? Voilà pourquoi Sarkozy joue dans les failles.
Et ceux qui argumentent pour l'entrée malgré tout de la Turquie, quels sont leurs arguments?
Alors, leurs arguments, c'est d'abord, ça, c'est certainement tous les financiers. C'est certain. Parce qu'il y a de quoi. Alors là, il y a marché à fond les industries européennes pour remonter toute la Turquie à un niveau de pays en émergence. Ce seraient des contrats prodigieux. Il leur manque des avions, il leur manque des chaînes, il leur manque n'importe quoi. Donc c'est formidable pour les affaires. Bon, je vous signale que, à la bourse, vous le savez mieux que moi, je sais pas, que la bourse turque est la seule étrangère à figurer. Nous sommes bien d'accord. Oui, très bien, la commission. Mais ça peut jouer par partenariat, ce que je suis en train de vous dire. Mais ce n'est pas suffisant. L'adhésion, c'est mieux. Bon. Deuxièmement, il y a le fait que les Américains sont derrière et appuient, à condition d'être pour l'entrée des Turcs, vous recevrez évidemment une aide, ceci sera. Tous les pays de l'Europe qui sont atlantistes sont évidemment aidés en fonction de la représentation de la Turquie. Parce que, comme les Américains comptent quitter l'Irak, comptent laisser l'Afghanistan, je ne sais pas quand, la Turquie constitue en tant que membre de l'OTAN, avec une armée colossale, une sorte de garant stratégique. C'est intéressant sur le plan stratégique, la Turquie. Vous y êtes. Troisièmement, le fait est qu'on a besoin de gaz, on a besoin de pétrole. Attention, qui va faire entrer ce gaz et ce pétrole? Les compagnies anglo-saxonnes. Si la Turquie entre, il y aura peut-être un petit Total, d'accord, il y aura surtout Exxon, il y aura Shell, il y aura Texaco, etc. Donc ça veut dire que c'est un gain phénoménal à Nabucco. Si on crée le Nord Stream et le South Stream, qui va gagner? Ce sont les actionnaires, c'est-à-dire les Français, les Allemands, les Italiens et les Russes, pas les Américains. Donc vous avez trois secteurs extrêmement simples qui veulent l'entrée. Alors évidemment, ceux qui veulent encore l'entrée des Turcs, c'est alors sur un plan, je dirais, plus généreux. Et c'est sur ceux que je préfère. Parce que là, on peut encore discuter, attention, discuter jusqu'à un certain point, quand je sais ce qui va arriver en Turquie maintenant, j'ai quand même des informations. Et là, ils vont passer un très mauvais quart d'heure en Turquie. Je vous le signale, ça ne m'étonnerait pas que dans à peu près 40 ans ou 30 ans, toutes les femmes turques soient voilées. Ça ne va pas tarder, hein? Mm-hmm. Ça, c'est certain. D'ailleurs, il suffit d'écouter les laïcs turcs, qui sont affolés, affolés. Bon, c'est simplement le fait que ceux qui disent, c'est pas possible que l'on refuse l'entrée, qu'on refuse l'entrée à des gens qui veulent des amis, c'est pas possible de faire un bloc, une forteresse européenne contre quand même des gens qui veulent adhérer avec une bonne volonté. C'est pas digne des droits de l'homme. Après tout, les Turcs veulent entrer, pourquoi pas, c'est un islam modéré, et bien acceptons. Qu'est-ce que je veux dire? Mais ça, je dis que ce sont des naïfs. Ce sont des gens généreux. Je n'aime pas ceux qui disent faisons entrer la Turquie parce que ça rapportera du gaz, faites entrer la Turquie parce que ça permettra de gagner de l'argent en vendant aux Turcs. Ça, c'est ce que j'appelle le drame d'un capitaliste qui ne voit pas du tout dans quoi il s'engage dans le futur. La mondialisation est une chose très bonne, sauf qu'elle doit être utilisée pour commencer à manœuvrer où le gain est supplémentaire. Je suis contre le fait qu'on délocalise sans arrêt, que ça coûte moins cher en Roumanie. Alors attention, s'il se passe aussi qui est dramatique, les syndicats, la gauche, a toujours été contre l'Europe. À l'origine, contre l'Europe. Mais c'est très simple à comprendre. Le Parti communiste français, il n'est pas pour l'Europe, vous devinez bien. Il possédait 25% des voix françaises. Entrer dans l'Europe, c'est perdre une puissance colossale. Vous savez que ce qu'on appelle le syndicat du livre, qui est communiste, possède les ouvriers de tous les journaux français. Les communistes, maintenant très faibles, mais il y a quelque temps, déclaraient la grève du livre, il n'y a plus un journal français qui sortait. Et encore très fort au pouvoir. Ce qui veut donc dire que là, ils sont les socialistes. Les socialistes, eux, se disent, qu'est-ce que c'est cette Europe des marchands, hein? Cette Europe des marchands. Et donc, les syndicats, la LGTB ou la CC, c'est fondamental pour le Parti socialiste, pour le Parti chrétien. Hein? Bon, les syndicats, la LGTB est très puissante en Wallonie, au-delà, qui connaît la LGTB. La CGT, c'est très puissant en France. Les syndicats jouent le nationalisme. On reste puissant dans les clochers. On est impuissant dilué dans l'Europe. Mais c'est-à-dire qu'au moment où il y a eu l'affaire de Renault Vivant, là soudain, notre LGTB a découvert qu'on ne pouvait pas attaquer les multinationales. Renault s'en va en Espagne, et le syndicat espagnol est très content. Et nous sommes désespérés. Alors on dit, mais il n'y a pas un syndicat européen pour lutter contre les multinationales. Ah, ça n'existe pas. Par contre, j'aime autant dire que les multinationales, elles, ont fait des liens colossaux au niveau marchand, évidemment. Et la gauche est morte. La gauche est morte en
Europe. Parce qu'on nous a pas vendu, au fond, une Europe politique pour éviter la guerre, respecter la guerre, pour nous imposer, au fond, une Europe purement économique, telle qu'elle était au départ, une Europe des marchands, justement.
Mais c'était qu'à l'heure actuelle, évidemment, à l'heure actuelle, il est évident que nous trouvons dans un système où, lentement et sûrement, nous sommes séparés complètement de notre vision de départ, pour arriver en effet à quelque chose qui est à but économique. Il n'y a pas que ça. Mais en fait, disons, c'est certainement plus économique que le reste. Mais le problème, c'est que même sur le plan économique, ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de direction possible, de directivité possible. Tout le monde fait ce qu'il veut. L'Angleterre a sa politique étrangère. Écoutez, vous mettez cette malheureuse Ashton. Vous voulez qu'elle fasse. Cameron dit, je veux ça. Sarkozy dit, je veux ça. Mais Zapatero dit, je veux ça. Et alors même, le moins qu'on ne peut rien dire, n'est-ce pas, à notre ami italien, puisque lui, il est généralement dans des festivals aigus dans sa villa. Mais bon, on ne sait rien faire. Vous avez le Hongrois qui s'appelle, et qui lâche calmement une loi contre la presse. On est là. On est là. Berlusconi est là. Oui, Michel l'a dit. Je ne serrai jamais la main à un type comme ça. Mais il est devenu commissaire. Il a serré la main à Berlusconi. Heider est devenu, à un moment donné, au pouvoir là, du côté autrichien. On a dit, c'est scandaleux. Qu'a fait l'Autriche? L'Autriche a à chaque fois opposé son veto à toute décision européenne jusqu'au moment où on reconnaît qu'elle est un pays indépendant, un pays libre. On a été obligé d'accepter Heider. On est dans une sorte de confédération totale. Dans un système en pleine dilution, c'est dramatique.
Au sujet de...
Attends, je vais faire ça l'heure. Monsieur Davor,
vous avez dit que sur le plan politique, stratégique, etc., il fallait, et c'est évident, avoir une vision en s'appuyant sur la connaissance du passé. Moi, je suis personnellement terriblement effrayé par la puissance du financier qui échappe à tous les contrôles. Ce qui m'effraie, c'est Davos, hein, vraiment. Hein, et ces contrôles qui sont impossibles à organiser sur le plan mondial, évidemment. Hein, puisque, vous l'avez dit vous-même, une société se délocalise, donc il n'existe pas un seul État pour mettre de l'ordre là-dedans, et puis ce n'est pas du tout souhaité par les financiers qu'on mette un petit peu d'ordre là-dedans. Alors, je suis très inquiet de voir qu'on peut, comme cela, provoquer des famines en un jour de temps, je pense, il y a 2 ans ou 3 ans, le blé a monté de 30%. Et il y a eu des centaines de milliers de gens qui n'étaient plus capables d'acheter de la farine, ou des millions de gens. Alors là, c'est un véritable problème.
Oui, je vais vous répondre et je vais vous poser la question qui est ici.
C'est au sujet de l'Afrique. Oui. Vous avez éveillé mon intérêt en parlant de l'importance des ethnies et des solidarités ethniques à la politique, je vous suis parfaitement, et après vous m'avez un peu, disons, suscité mon intérêt. Quelle est la suite de votre pensée à ce sujet?
Ah, d'accord, 2 réponses. La première réponse, c'est le fait que le monde vit de plus en plus dans un système où non seulement il n'est plus possible de faire passer des idées de générosité qui émanent de l'Europe et de l'Amérique avec les droits de l'homme. Les droits de l'homme, on se rend de plus en plus, sont inexportables dans le monde entier. Vous avez 1,4 milliard de Chinois. Ce parti communiste, depuis Deng Xiaoping, parlons pas d'abord, a réalisé des choses tout à fait extraordinaires. Deng Xiaoping a libéralisé tous les paysans. 70% d'un seul coup ont des terres dont la propriété reste à l'État, mais ils sont dessus locataires à vie. Bon. Voilà. Deuxièmement, ils ont accepté des firmes familiales. Troisièmement, tout ça chronologiquement. Ils ont accepté finalement des systèmes de petites SPRL, etc. Ils en sont arrivés à la société anonyme. Tout ça n'est plus très communiste. Ils ont attaqué l'administration. Un tiers a été mis à la pension. Essayez de faire ça en France. On est à 1,4 milliard. Ensuite, là, ils s'attaquent aux trusts, qui évidemment sont tous des canards boiteux que les banques chinoises aident comme on peut. Les coqueries lougrées qu'on est obligé d'aider parce qu'il y a 200 millions de Chinois qui travaillent là-dedans. On est en train d'épurer tous les trusts. C'est un travail de titre. Est-ce que vous allez réellement accepter quelques dissidents sur Facebook? Vous allez accepter. Vous êtes le capitaine d'un bateau de 500 000 tonnes, un pétrolier. Vous allez inventer l'équipage pour savoir dans quel sens on va? Non. C'est une fourmilière. Une fourmilière de 1,4 milliard de personnes lancées là dans la démocratie. Il y a 6 Chine qui naissent, et c'est pas de la guerre qui renaissent. C'est la catastrophe totale. Je suis évidemment pour la démocratie, ça tourne sans. Oui, ici, dans des pays policiers du type européen, mais avec 1 milliard d'individus, parce qu'attention, l'être réussit, me dit-on toujours. Attention, je reviens de l'être. Ça ne va pas réussir longtemps. Il n'y a plus de chef charismatique. Les Gandhi et les Roux disparaissent. Ils sont anonymes. Bon. Quand vous arrivez chez les Tamouls, vous avez un guide qui parle tamoul. Il ne faut pas qu'il y ait un guide hindi qui arrive. Hein. Il est fichu d'eau. Jamais un gars venant du nord devenant un guide dans le sud. Bon, tamoul. On passe dans le Kerala. Boum, l'ourdou. Pouf. L'hindi exécré. Il y a là-dedans, c'est un assemblage de colonies anglaises qui a mis les marques. N'importe qui là-dedans, allons-y, les Marathas, les Rajput, allons-y. Oui, mais attention, c'est en train de complètement se dissocier. Il y avait 80 à 100 millions d'intouchables. les 15 dont ce sont plus intouchables, obtiennent 27% des postes dans l'administration, peuvent entrer dans les universités. Il y a eu, il y a 2 ans, des brahmanes qui se sont immolés par le feu, ne supportant pas la promotion des intouchables. On dit c'est supprimé, vous voulez rire. Si vous êtes un père brahman et que votre fille vous ramène un intouchable comme mari, ça va faire un problème. Hein? Il y a moyen de se marier entre ces deux-là ou éventuellement à Scarbeck. Mais certainement pas là-bas en Inde. C'est la mort. Sans, il n'y a aucun problème. Donc, il reste une sorte de fantastique division des classes en dessous d'une Inde apparemment unie. L'État gère comme il peut, est à peine écouté dans les différents sous-États. Il y a une formidable distorsion qui se met à jouer entre les financiers qui gagnent des fortunes, la famille Parsi, les Parsis, et les gens du fond qui s'enfoncent de plus en plus. Eh bien, ça va exploser. Je vous garantis que ça va exploser. Et si ça saute, ça va être pire que le Liban. 1 milliard d'individus vont exploser. Sur le flanc de la Chine, de la Russie, et du Pakistan. Qu'est-ce qui va se passer? On sent, j'ai eu un guide qui était un tableau tout à fait remarquable, on sentait cette volonté pratiquement catalane de Fischer-Kahn. C'était, on ne peut pas continuer comme ça. Bon, ce qui veut donc dire que l'Inde, les droits de l'homme, on a compris, tant mieux, mais en Chine, on dit c'est pas possible, c'est pas possible. On ne peut pas permettre une opposition généralement aussi financé de l'extérieur. Hein. Égal, hein. Parce que ça, on sait très bien d'où vient l'argent. Vous croyez peut-être que les opposants de Poutine ne sont pas légèrement payés par des fonds discrets arrivant de l'étranger. On dit que Poutine manie, mais les autres aussi, évidemment, mais ça tombe sous ça. L'argent circule.
Mais c'est ça qui est scandaleux, c'est cette opacité du milieu financier. Vous avez des paradis fiscaux, vous avez des mécanismes financiers qui échappent à tous les contrôles, partout dans le monde, et c'est ça le danger.
Je vais répondre par une chose que je dis souvent dans mes cours, il y a 3 sinusoïdes qui existent au monde, éternelles depuis que l'homme existe. La première sinusoïde, la sinusoïde des marchands. Donc, je l'appellerai sans aucune critique. Je ne dis pas, attention, je dis ce mot sans être négatif, parce que ce mot, le capitalisme, donc c'est le capitalisme, parce que avec ses qualités, c'est la meilleure façon de produire. Indéniablement, tout le monde veut trouver le vaccin contre le sida. Tout le monde veut trouver le dernier machin GSM, ne pas regarder qui va très fort. Tout le monde veut trouver la télévision 3D. Tout le monde veut trouver l'avion qui fera ceci. C'est prodigieux. Enfin, ce capitalisme et les financiers, comme vous dites si bien, font partir en flèche.
Moi je parle des véritables financiers, même pas ceux qui produisent,
oui,
mais ceux qui sont financiers.
Et je comprends ce que vous dites, il y a 2 étages. Et même ceux qui produisent. Bon, d'accord. Vous avez cette concurrence terrifiante, etc. Bon, et les voitures qui valent mieux aussi. Donc c'est vraiment fantastique. Mais attention, c'est complètement clinique. Parce qu'il s'agit de produire où ça coûte moins cher, pour vendre où ça rapporte plus. C'est clair, c'est complètement immoral. Mais c'est une marche formidable vers l'avant. Le fait est que ça fait une médecine comme ça, c'est vrai, c'est productif d'un tas de choses, mais attention, ça crée une diversification colossale entre celui qui gagne le plus et celui qui gagne le moins. On entretient les pauvres pour pouvoir vendre avec un prix de revient, les compris. On entretient ces pauvres. On aime bien les pauvres parce que souvent ils travaillent pour rien. C'est clair. Et ceux qui travaillent pour un peu plus cher, on les liquide, on les met en grève, on a compris. La deuxième schizoïde, c'est la schizoïde socialiste. Encore une fois, en général, c'est la vertu maximale. C'est la dispersion des biens, la distribution des biens. On veille sur tout le monde. Attention. Négatif. On remplace une bourgeoisie d'argent et des gens hyper compétents par des fonctionnaires. Les fonctionnaires qui sont là pour gérer l'État qui est centralisé et socialiste. Bon, On remplace donc les bourgeois animateurs de production par ce que j'appelle des bureaucrates, avec des tampons. Un tel a touché sa prime, un tel a touché son chômage, un tel a touché ceci. On crée l'assassinat, on crée l'assistanat collectif. Et l'emploi est sûrement, c'est immédiat. Les bureaucrates gagnent trop peu. Corruption. Liège, Charleroi. Corruption. En plus de ça, vous allez en Russie, encore maintenant, vous mettez dans votre, éventuellement, 20 euros ici dans votre passeport, la valise est vérifiée. Vous arrivez là, dans un hôtel où toutes les chambres sont prises, entre guillemets, vous mettez 20 euros au concierge, vous avez déjà. C'est bien parti. On est dans un système anciennement communiste, ça marche comme ça. Mais attention, attention, la seule solution alors, c'est laquelle? Celle que nous vivons de façon très éphémère. Le socialisme de Germinal est intervenu dans quelque chose de tout à fait atroce, qui était le capitalisme du XXe siècle. Où là, vous avez un grand ministre catholique, Proust, qui a déclaré « On ne peut quand même pas commencer à faire une loi permettant aux enfants de quitter la mine. » Les enfants étaient dans la mine avec les chevaux aveugles, parce qu'ils pénétraient facilement les petites galeries. Que va-t-on faire avec tous ces enfants dans la rue? Est-ce que vous vous rendez compte? C'était invraisemblable. Il a fallu Germinal, il a fallu vraiment des bagarres folles, et les syndicats, quand même, ont arraché, évidemment, une certaine sécurité sociale. Et maintenant, ici, c'est formidable. Vous avez, disons, la sécurité sociale, avec le fait que vous trouvez un médecin à Eras, qui est un professeur d'université extraordinaire, vous avez la mutuelle qui paye vos chambres et l'opération. C'est inouï, ça. Très différent des Américains qui sont dans le capitalisme, par parenthèse. Hein. Vous voyez très bien la différence entre les deux. Mais c'est complètement éphémère. C'est un équilibre. Ah, tout ça, c'est ça. Éphémère, ça veut simplement que c'est un acquis, mais tout à fait sur une branche fragile, comme un rossignol. Vous comprenez bien que ça coûte cher, c'est ceci. Vous avez déjà des parties de droit qui disent qu'il faut des assurances maladie, invalidité, que chacun paie. Hein. Les pensions, il faut remplacer ça absolument par ce que j'appelle des sécurités accumulées dans sa vie par soi-même, comme des écureuils. Hein. Vous savez que je vous signale qu'en Hollande, on a fait un petit peu abaisser les mutuelles. Les gens se sont inscrits dans des assurances santé. Vous faites un cancer à 50 ans. Votre prix augmente, vous allez coûter cher, vous avez fait un accident. Assurance voiture. Après 80 ans, on ne paye plus les opérations. Après 80 ans, c'est fini. Vous êtes parti pré-ciel. On ne paye plus. Vous avez Madame Ockelix qui vient de lâcher que pour un peu, comment dirais-je, traquer le cancer, de la prostate et autres, il y aura une aide de l'État pour les gens de 55 à 75 ans. À 75 ans, vous êtes fini, hein? Vous n'êtes pas un peu fortuné, vous êtes mort. Il n'y a plus de garderie pour la prostate, etc. Voilà, c'est fini, terminé. Ça veut dire simplement que si on commence comme ça, où va-t-on? Ce qui veut donc dire qu'à ce moment-là, si on fait, regardez bien, vous avez un social qui coûte très cher au patron. Ici, en France ou ici. Les patrons disent, ça coûte très cher. En Angleterre, ça va quand même mieux. Hein? Mais il n'y a pas de sécurité sociale. Ou pratiquement pas. Ah oui, c'est vrai. Alors on va donc faire, si on fait l'Europe fédérale, on va devoir faire un social unique. Croyez-vous vraiment que c'est notre société qui va l'emporter? Vous voulez rire? On va perdre absolument tous nos bénéfices. On va être greffé sur le plus petit commun dénominateur. Que les Anglais vont accepter de mettre soudain notre système de sécurité en marche. Vous voulez rire? C'est pas possible. Les États sont chevillés dans des nationalismes aussi absurdes que l'Irlande acceptait de voter le traité de Lisbonne si on ne mettait pas en cause l'avortement. J'ai rien contre pour. Vous vous rendez compte? Il y a une jeune femme, une gamine de 13-14 ans qui a été violée par son père, elle est enceinte. L'Église irlandaise a refusé qu'elle avorte. Vous entendez bien, ça a fait un tel chahut dans toute l'Europe qu'on a accepté de lui donner un passeport pour la Hollande que ça va avorter en terrain pur. L'Irlande, vous voulez faire une Europe de ça, de tout ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, bon, vous avez soin de la suite. Deuxième phrase que j'ai prononcée à Godot, c'est le clan. Il y a évidemment que j'appelle l'ethnie, il y a le clan. Clan, c'est une merveille. C'est une merveille. Il n'y a pas d'assistance sociale. Donc, le clan veille sur ses vieillards. Le clan est les plus pauvres du clan. Jamais personne, comme en France, ne mourra à une canicule dans un home abandonné par ses enfants. 11 000 morts à la canicule d'il y a quelques années en France. 11 000 vieillards abandonnés par leurs enfants dans des homes qui ne donnaient pas assez d'eau. On va le faire. 11 000 morts. Pays civilisé. Là, vous n'aurez jamais un mort vieillard sans être assorti de toute famille autour de lui. Vous mettez attention, il y a un petit problème. C'est pour ça que je fais un garagiste pour Kinshasa. Mon garage marche bien. J'ai tous mes neveux, tous mes cousins, tous mes fils, toutes mes filles, tous mes hommes, toutes mes tantes qui arrivent pour avoir de l'argent, pour les nourrir. Mon neveu a épousé une Camerounaise, une famille riche, nièce de l'archevêque, etc. Ça va très bien. Le frère se marie. Vent de folie souffle. Il faut tenir son rang. Résultat, quasiment 1 million de francs belges pour le mariage. Il fallait vraiment être dans son rang. Oui, mais on a demandé à mon neveu qui est belge de partiser, évidemment, de participer. Vous vous rendez compte? Alors, le problème chez nous, nous avons le problème simple qui est aisé sur le plan du capital, c'est que nous avons des patrimoines séparés. Mon père, ma mère avaient un patrimoine, moi un autre, donc au fond, ça ne se mélangeait pas. Sauf par des accords de famille généreux. Mais là, le garagiste m'a fait faillite, forcément. J'ai un ministre de Kinshasa, à l'époque de le poste Kasavubu, qui m'a dit, je suis ministre, évidemment je suis comment. J'ai à peu près 200 personnes à nourrir. Le clan est donc fantastiquement un objet mécanique de corruption. J'ai pas dit ça comme ça. J'ai fait comprendre qu'il y avait donc les entrées massives qui faisaient que. Et que manifestement, il y avait un problème. L'ethnie, ça les joue à fond. On continue, je veux bien, hein, Laurent.
Je pense qu'il faut peut-être laisser la possibilité à ceux qui veulent partir de
je crois aussi.
On peut continuer à discuter.
J'ai complètement ouvert
un verre et à poser des questions. Je pense que ce sera peut-être.
Alors attention, ce sont des apartés.
Oui, on peut commencer on arrête, autour de toi.
On arrête les questions autour de moi. Ça va bien. Les pigeons de la place Saint-Marc, c'est là.
Et tu vois, Jacques, tu vas devoir me dire quelle est la troisième signification. Oui,
c'est. Ah, c'est excellent, j'ai oublié. La troisième, c'est laïcité et religion. Il y a des époques extraordinaires où la religion monte en flèche partout. Et des époques où la religion n'existe plus, pratiquement. Je prends le 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est ahurissant. Les Grecs se débarrassent quelque peu de leur dieu et commencent à jouer la mécanique et les machins de la philosophie à fond. 6e siècle, hein, sont pratiquement tout cela. Le bouddhisme, une philosophie, pas de dieu. Le jaïnisme, une philosophie, pas de dieu. Le confucianisme, une philosophie, pas de dieu. Le taoïsme, une philosophie, c'est inouï. 200 ans plus tard, les Grecs sont de nouveau croyants. Le jaïnisme est devenu une phase du vishnouisme. Le bouddhisme de la religion d'État de l'Inde, le confucianisme religion d'État de la Chine, le taoïsme est une religion. Pourquoi? Parce que à l'échelle de l'humanité, il est strictement impossible d'avoir une proportion de non-croyants minoritaires. La peur du devenir et les inconnus d'où on vient et où on va sont tels qu'il faut à la majorité de la population humanitaire Il faut tout simplement un protecteur qui a un espoir. Donc, pas, ça, c'est, méchant. Dans ce type-là, attention, vous êtes en train de prendre parti. J'ai pas compris. La libre pensée en tant que telle, je ne parle pas des communistes et des gens qui sont non-croyants, athées, féroces, hein. Ça c'est une autre forme de religion, ça. Dire que Dieu n'existe pas, c'est une religion. D'accord, c'est la même chose. Bon. Disons, ceux qui n'ont pas Dieu en eux, qui n'en sont pas plus mal. Bon. C'est à peu près 3-4% de l'humanité. J'ai fait partie dans tous les pays du monde, ça commence avec le christianisme, ça s'ensuit directement par l'islam, l'islam est passé à la limite, ensuite le bouddhisme, pour commencer avec les protestants, etc. C'est fantastique le nombre de gens qui croient. Je n'ai pas du tout d'opposition à cela. Si la foi est un dynamisme de générosité, si la foi est une conviction qui rend généreux, bravo, hein, merveilleuse. Je connais des athées insupportables, moi. Je connais des laïcs complètement fous qui mangent du curé tous les matins, petit déjeuner, enfin. Et les abats la calotte de l'UMP, ça me rend malade. Je suis professeur, moi, à Louvain, ça ne me gêne pas, hein, pas du tout. À l'Ichec, à Louvain, vous voulez. À l'UMP aussi. Mais complètement égal, moi, à condition que je sois capable, qu'on me permette de dire ce que je pense, ce que je veux, et que je puisse rester objectif et non pas cadenassé par un cléricalisme quelconque. Cléricalisme qui soit laïque d'ailleurs, ou qui soit parfaitement religieux. Voilà, la réponse est bon. Ça va? Va voir. Merci beaucoup.